de direction d'un collège. Et donc, nous avons décidé cette année de travailler en binôme, en quelque sorte, de répondre à cette demande. Donc, moi, ce que je propose, c'est un cadrage conceptuel le plus léger possible, en essayant d'être, je dirais, quand même clair et précis. Et puis ensuite, Sébastien Claire, qui est professeur, lui, de lycée professionnel, hein, c'est ça, dans l'Académie de Créteil, et qui a une expérience de terrain qui a été reconnue, va intervenir sur le côté pratique, voilà, sur l'aspect pratique. Donc c'est un, nous sommes là encore une fois à titre expérimental, mais c'est un peu la manière dont nous fonctionnons à l'Université de tous les savoirs, c'est-à-dire de manière expérimentale. Et puis on ajuste et on perfectionne, et quand la formule est opérante, bon bah on la valide. Donc aujourd'hui, on vous a demandé de parler du respect, donc je vais vous parler du respect. Je vais vous présenter pendant, je pense, une vingtaine de minutes, pas plus, le cadrage conceptuel, si vous voulez. Et puis ensuite, Sébastien Claire abordera les choses du point de vue des comportements pratiques. Et ensuite, nous répondrons à vos questions, à vos préoccupations, à vos remarques, à vos critiques, etc. Je comprends très bien d'ailleurs à la fois le regret de Monsieur Mine, et en même temps, je comprends très bien l'objet de son regret, c'est que c'est vrai que c'est une initiative nouvelle. Donc, les professeurs n'ont pas forcément l'habitude d'accueillir cette sorte d'initiative, ni avec intérêt, ni même, je dirais, sans soupçon ou sans inquiétude. Donc, c'est toujours pareil, hein. Je veux dire, quand on lance des initiatives nouvelles, il y a un temps d'expérimentation et un temps de découverte. Et j'espère seulement que ce sera, pour ceux qui sont venus, ils ne le regretteront pas et qu'ils pourront dire à leurs collègues que peut-être qu'ils auraient pu venir et que la prochaine fois, ça serait intéressant. On va essayer, hein. Donc moi, je commence sur le respect. Ma diapositive est bien mieux que côté un peu psychédélique là, hein, un peu boîte de nuit, mais enfin bon, c'est le projecteur qui fait un peu des siennes. Et je vous parle du respect. Alors moi, la première chose que je noterais je pense qu'il faut, la philosophie, ça consiste pour moi à faire des distinctions conceptuelles et à clarifier les situations en les analysant correctement. Bon, c'est tout ce qui m'importe. Donc, je ne vais pas vous emmener dans la métaphysique, mais je vais vous parler des points conceptuels. Donc, le respect, je ferai une distinction de départ, c'est le mode de comportement, respecter une interdiction de fumer, ça veut dire ne pas fumer, respecter au foot ou au rugby les règles, ne pas faire comme Thierry Henry, par exemple, respecter la ligne de touche, ne pas utiliser la main pour le ballon, etc., hein. On ne passe pas en touche quand on joue au foot, ou alors on y passe en douce, si c'est possible, mais en tout cas, c'est pas permis. Ensuite, il y a le respect, l'autre dimension, c'est le respect comme vécu, comme attitude, comme sentiment. C'est le respect qu'on éprouve, l'émotion de respect ou le sentiment de respect, le respect pour ses grands-parents, le respect pour les lieux de religion, dans lesquels on n'entre pas forcément comme dans un moulin, le respect pour un lieu d'un terrible accident. Je veux dire, on ressent quelque chose, on est impressionné. Mais je trouve qu'en janvier dernier, en février dernier, je me suis trouvé à New York et je suis allé, j'étais pas allé aux États-Unis depuis le 11 septembre 2001, mais même avant. On va, comme beaucoup de gens, hein, on va faire un tour autour de l'emplacement du World Trade Center et on a un certain sentiment de respect, on est un peu impressionné, on est un peu ému, on repense à tout ça. Ça, c'est le vécu du respect. Bon. Alors, cette distinction a des conséquences pour les conduites, de la manière dont nous nous comportons. C'est-à-dire que, d'abord, on respecte des interdictions, c'est dans ma colonne de gauche, on respecte des règles dans un jeu, on respecte des prescriptions, par exemple, quand vous prenez un médicament, normalement, vous devez respecter la prescription du médecin et les indications du pharmacien, par exemple. Vous respectez des normes ou des distances de sécurité. Hein, respectez des normes, par exemple. Je pense qu'un établissement scolaire, n'importe quelle construction publique, et doit respecter un nombre de normes considérables, des normes anti-incendie, des normes d'unité de passage, des normes de porte-coupe-feu, etc. Donc ça, c'est respecter des interdictions. Ça ne veut pas du tout dire que vous éprouviez le sentiment de respect. Il n'y a pas. Il faudrait avoir une religion du code de la route pour éprouver un sentiment de respect pour le code de la route, si vous voulez. Il faudrait avoir un sentiment assez fou. Mais il y a des gens, hein, il y a des ingénieurs comme ça, par exemple, qui ont une religion de la norme, hein, y compris dans leur comportement privé, puisque tout est calibré par la norme, il faut respecter la norme. Alors, ce respect, je dirais, dans les conduites, le respect de la norme peut avoir de l'obligation, de la norme, de la règle, etc., de l'interdiction, peut avoir plusieurs raisons. La crainte, je ne veux pas avoir d'amende, par exemple, je ne veux pas me faire prendre par le radar. Pensez aux circulations en automobile aujourd'hui. On respecte la limitation de vitesse bien souvent parce qu'on ne veut pas se faire flasher par le radar. Ou bien j'obéis par crainte aussi parce que le type, je le respecte parce qu'il est beaucoup plus gros que moi. Hein? Mais il y a d'autres formes, d'autres raisons, si vous voulez, du respect des règles, des interdictions, des prescriptions. C'est aussi l'habitude. On oublie trop l'importance de l'habitude. Et en fait, il y a beaucoup de choses qu'on respecte tout simplement parce qu'on a toujours fait comme ça et qu'on ne va pas se fatiguer à inventer autre chose. Ce n'est pas la peine d'aller. Il y a des normes de bruit, il y a des normes de construction. Je veux dire, on les respecte automatiquement et puis on est bien embêté quand elles changent, mais c'est l'habitude. Ça va de soi qu'on va respecter les normes de sécurité, les normes d'hygiène, etc. Bon, il y a des cas aussi où on respecte parce que c'est la règle du jeu et que sans cette règle, on ne peut pas jouer. Normalement, si vous voulez, je veux dire, la main de Thierry Henry est intéressante d'ailleurs là-dessus, c'est que si les joueurs jouaient tout le temps avec la main, alors ils ne pourraient plus jouer, il n'y aurait plus de match. De même que si les basketteurs se plaquaient, il n'y aurait plus de match de basket possible. De temps en temps, ils peuvent essayer soit en douce de tricher, mais disons que la condition pour que le jeu ait lieu, le jeu de football, c'est qu'on joue avec le pied, voyez, et qu'on joue dans l'espace délimité, et qu'on joue d'une certaine manière, qu'on respecte la surface de réparation, etc. Et puis on peut respecter, dernière indication, c'est parce qu'on a vraiment du respect, parce qu'on a le sentiment du respect, et qu'on a vraiment une reconnaissance importante pour la règle. Encore une fois, je veux dire, c'est pas toutes les règles qui demandent ce genre de respect du sentiment. Une fois, je veux dire, on ne vous demande pas d'adorer le code de la route, mais si vous êtes un joueur... Si vous êtes un joueur très correct dans un sport, moi je connais des joueurs qui ne font des mains, j'ai connu des joueurs qui ne faisaient des mains que involontaires. On fait toujours des mains involontaires au foot, hein. Mais j'ai connu en revanche des joueurs, il est également bon dans les deux cas, qui faisaient en douce des mains. Vous voyez? Mais il y a des gens qui ont un vrai respect pour les règles la règle du jeu, un vrai respect, c'est le respect du fair play à ce moment-là. Là, on entre plutôt dans le sentiment de respect. C'est-à-dire que ça ne va pas de soi que jouer au foot, on ait le droit de mettre la main. Donc si on la met, c'est involontairement quand on est dans une phase de jeu et qu'on n'a pas pu faire autrement. On est sanctionné d'ailleurs aussi, hein, mais c'est une main involontaire. Voilà. Donc vous voyez la gradation des motifs de respecter. Hein. Ça peut être par la crainte, l'habitude, la volonté de continuer le jeu ou véritablement un sentiment de respect. Bon, l'irrespect, j'ai pas beaucoup d'images, hein. C'est ne pas respecter l'interdiction, ou, ça c'est en termes de conduite, ou alors c'est tout simplement mépriser. Mépriser. Là, vous avez un bon exemple, je dirais, des deux aspects de l'irrespect. C'est-à-dire, un, les gens sont des gougnafiers qui ont mis les poubelles sur l'emplacement de réservé aux handicapés, mais en même temps, visiblement, le handicapé, ils s'en foutent. Hein, n'éprouvent aucun respect pour quelqu'un qui est handicapé. Vous voyez, là, on a les deux aspects, l'aspect transgression de la règle et l'aspect ignorance du sentiment, en quelque sorte, de respect. Alors, je parle maintenant non plus des conduites, mais du sentiment de respect. Tout ça pour vous dire qu'il est probablement un peu plus complexe que la simple demande de respect en ouvrant sur son t-shirt, au demeurant tout à fait respectable. Hein. Le sentiment de respect, c'est une émotion. C'est un ressenti, un vécu qui fait qu'on a une certaine attitude envers quelqu'un ou envers quelque chose. Et ça va se traduire dans le comportement. Comment ça va se traduire dans le comportement, le sentiment de respect? C'est qu'on ne va pas traiter par-dessous la jambe, on ne va pas rudoyer, on va faire attention, on va attacher de la valeur. Dans le comportement, si vous avez du respect pour les vieillards, vous n'allez pas les traiter par-dessous la jambe, vous n'allez pas les rudoyer, vous allez faire attention à leurs besoins et à leurs difficultés, et vous allez attacher de la valeur. Vous allez avoir du respect, un respect pour les anciens. Ça peut être du respect pour les malades, du respect pour les handicapés, du respect aussi. Vous pouvez avoir du respect tout simplement aussi pour des gens parce ils ont des qualités humaines éminentes. Quand on reçoit quelqu'un qui dont les accomplissements intellectuels, littéraires, artistiques sont grands, eh bien normalement on a du respect. Vous voyez, c'est une sorte de les Japonais ont des trésors, des monuments, des personnes qui sont des trésors humains. Eh bien c'est la marque du respect qu'on a pour ces personnes-là. Je me souviens quand j'ai enseigné à l'école d'art de Marseille, nous avions un potier qui était d'origine kabyle, un grand maître de la poterie, qui était un homme extrêmement modeste, qui ne payait vraiment pas de mine, qui était toujours en train de traînasser dans les couloirs, mais qui jouissait d'un vrai respect. Et j'ai été heureux de voir que sur la fin de ses jours, il a été honoré quasiment comme un trésor national par le ministère de la Culture. Il a reçu une médaille très importante. Parce que ses accomplissements en poterie étaient des accomplissements tout à fait remarquables et c'était un homme très respectable. Alors l'étymologie respect, respicere en latin, c'est regarder de nouveau quelque chose. C'est pas seulement calculer, hein, comme ils disent. C'est pas seulement ne pas, c'est ne pas zapper, hein, en quelque sorte. C'est revenir sur, c'est regarder de nouveau, s'arrêter sur, regarder mieux. Et ça, effectivement, du coup, vous vous rendez bien compte que c'est une attitude qui aujourd'hui n'est pas facile, parce que nous sommes surchargés d'événements perceptifs et d'événements tout court, et nous avons tendance, eh bien, à pas faire attention. Je ne fais pas attention. Je suis très frappé de voir, par exemple, que dans les rues, par exemple, aujourd'hui, tout le monde est pressé, on se bouscule allègrement. Il y a des pays où on se bouscule un peu mieux. Et puis quand les gens s'aperçoivent qu'ils vous ont un peu trop bousculé, ils vous font un petit geste de la main comme ça pour s'excuser, vous voyez, pour dire que c'était pas, ils voulaient pas vous tuer, quoi. Ils voulaient, c'était gentil. Ils vous écrasaient, mais c'était gentil. Voilà. Donc, eh bien, on est dans une société où on fait plus tellement attention aux gens et on s'arrête plus tellement sur les choses non plus. Et donc, on a tendance à pas être respectueux. Je veux dire, par exemple, si vous voulez, si vous rencontrez quelqu'un, bon, bah, c'est un vieux, hein, c'est un vieux, il marche pas vite, il encombre le trottoir, ou il grogne, ou il comprend rien dans la queue, etc. Bon, l'attitude du respect consiste à dire, oui, mais c'est revenir là-dessus. Mais c'est un être humain comme moi, il est vulnérable, peut-être que je serai vulnérable comme lui un jour, et donc je le respecte. C'est cette attitude de revenir sur. Le respect, c'est revenir sur l'identification immédiate, le coup d'œil immédiat, la vision immédiate. Alors, maintenant, analyse du sentiment. Oui, c'est lisible, hein, c'est un peu rose, mais c'est lisible. Et chez moi, c'est noir. Hein. Analyse du sentiment ou de l'attitude de respect. Je dirais d'abord, le respect, c'est quelque chose qui est propre à un être humain. Mon chien, je peux éventuellement, pourrais le tenir en respect, mais je dirais qu'un gros bâton éventuellement, ou un aiguillon électrique, mais je dirais pas que les animaux nous respectent. Ou alors ils respectent au sens où ils respectent purement et simplement la crainte ou la stimulation de récompense. Le chien, il m'obéit ou il m'obéit pas. Hein. Et je n'attends pas du respect de la montagne. Alors, sauf quelquefois chez les grands alpinistes, les gens qui ont vraiment eu une vie entière dans la montagne et qui ont appris à respecter les éléments, si vous voulez, les grands marins aussi, les gens qui ont l'habitude des choses extrêmement dures et difficiles. Là, à ce moment-là, il y a une sorte de personnalisation de l'autre, de la chose en face. Et donc, je respecte la montagne, je respecte la mer. Mais là, ça implique une relation extrêmement particulière qui se personnalise beaucoup, où la montagne va être perçue un petit peu comme une sorte d'être très important et imposant dont il faut respecter les propriétés. Alors, le respect suppose un objet à respecter, qui a une valeur ou qu'il mérite. Hein, c'est-à-dire que je laisse de côté mon égoïsme pour me tourner vers l'objet. Si je respecte une personne ou un lieu, par exemple, je vais adapter mon comportement, faire attention à cette chose, arrêter de penser à moi d'abord, etc., etc. Et j'y mets quelque chose de moi. Hein. J'accorde mon attention volontairement, je donne mon estime, j'essaye de. Et normalement, je dois pouvoir, je crois que sérieusement, on peut expliquer pourquoi on a du respect. Je pense que ça serait vraiment une sottise de dire je respecte, mais je ne sais pas pourquoi. Si je respecte et que je ne sais pas pourquoi, ça veut dire tout simplement j'obéis, je me conforme, je suis la règle. Hein, mais il n'y a pas le sentiment de respect. Alors, le respect, du coup, ne se commande pas. Je ne peux pas dire j'ai décidé de respecter quelque chose. Il faut que la chose respectée commande mon attitude. Le respect impose des contraintes aussi, je vais aller un peu plus vite. Et je dois, si j'ai du respect pour quelqu'un ou quelque chose, je dois me conduire selon la règle du respect. Donc, d'où l'expression, je ne peux pas dire je respecte cette femme ou cette fille, mais c'est une salope. Vous voyez? Là, il y a quelque chose qui ne va pas dans l'usage du langage. Je ne peux pas dire oui, je te respecte, mais tu es une salope. Hein. Non, ça veut dire que c'est un sens très très particulier du respect. Ou alors, imaginons un tout petit bonhomme disant à une énorme bodybuildeuse je te respecte, mais tu es une salope. Alors là, ça veut dire qu'il crève de trouille, et que, mais ça ne sera pas du sentiment de respect. Et puis, je dirais que le respect aussi a une certaine universalité. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que si je respecte une personne pour une certaine raison, eh bien, il me sera difficile de ne pas respecter une autre personne ayant la même qualité pour la même raison. Si je respecte les vieillards, un vieillard, parce que c'est un vieillard, normalement, je dois respecter tous les vieillards qui ont cette propriété, sauf s'ils sont particulièrement indignes à ce moment-là. Ça peut arriver que des gens se rendent indignes. Je ne traiterai pas cette question-là aujourd'hui. C'est le cas des personnes qui deviendraient indignes de respect. Ça peut être le cas, hein. Mais voilà. Hein. Si je respecte ma mère parce que c'est ma mère, normalement, je respecte les mères en général. Alors, maintenant, je vais terminer là-dessus. Je vais accélérer un peu parce que je ne veux pas parler trop longtemps. Ça, c'est un point très important aujourd'hui, surtout par rapport à la modification de nos états d'esprit. Pourquoi a-t-on du respect? Alors, on respecte certaines choses de valeur éminente. Bon, les œuvres d'art, les souvenirs, les monuments. Normalement, on devrait respecter l'espace public parce qu'il est public. C'est récent qu'on ait du respect pour la nature. Mais c'est devenu un point important maintenant. Vous le voyez bien à travers tous les discours écologiques et les discours sur l'attention à la planète. Mais pendant très longtemps, il n'y a eu aucun respect pour la nature. La nature était vue comme un adversaire, un lieu de ressources et je dirais un milieu de vie. Donc, c'était dévastable, on pouvait jeter des détritus, on pouvait polluer. Nous avons maintenant ce respect de la nature, qui a une longue histoire, hein, qui commence peut-être avec Jean-Jacques Rousseau, qui se poursuit avec certains penseurs du 19e siècle. Mais c'est assez récent, si vous voulez, cette diffusion du respect de la nature. Et puis, je dirais que surtout, ce que de tout temps on a respecté, c'est les personnes. Et nous-mêmes comme personne, ça pose le problème du respect de soi. Alors encore une fois, certains philosophes ne diront pas que tout ce que j'énumère là soit respectable. C'est-à-dire qu'un philosophe kantien, par exemple, les disciples d'Emmanuel Kant diront toujours que le respect n'est dû qu'aux personnes. Donc pas la nature. La nature n'est pas une personne. Le respect est dû aux personnes, c'est-à-dire en tant qu'elles sont toutes des agents libres, des volontés, et des raisons. Et donc, on doit respecter fondamentalement ce qui fait la personne. Ça conduira Kant à dire que toute personne doit être traitée absolument comme une fin et jamais comme un moyen. Comme une fin et jamais comme un moyen. Puisque toute personne est une autonomie libre et raisonnable et qu'elle ne peut pas être instrumentalisée, manipulée et traitée comme moyen. Alors, je termine là-dessus. C'est maintenant pour les personnes, vous avez à votre tour, je dirais deux, à un tour, on a deux. Si je me limite aux personnes, je laisse de côté la nature. Je vais laisser aussi de côté la question du respect de soi, parce qu'encore une fois, je veux me tenir dans le temps imparti. Mais si on s'intéresse seulement aux personnes, ce qui est quand même est déjà pas mal pour aujourd'hui, il y a deux thèses en présence qui sont, à mon avis, conciliables, mais il faut être en situation de les distinguer. C'est d'abord, le respect est dû à toute personne, donc tout humain, parce qu'en tant qu'il est humain, c'est ce que je viens de vous dire, parce qu'il est raisonnable, libre, une fin en soi qu'on ne doit jamais traiter comme moyen. Donc ça veut dire que même la personne la plus méprisable a droit au respect. C'est ça qui, quelquefois, est difficile à avaler. D'où le deuxième volet, c'est que le respect est dû aux personnes en fonction de leur valeur morale et de leur mérite. Et que là, on peut accorder plus ou moins de respect aux personnes. Selon ce qu'elles valent. Encore une fois, quand vous rencontrez un grand savant ou un grand écrivain, peu importe comment ils sont arrivés à se faire prendre pour un grand savant ou un grand écrivain, vous aurez du respect par rapport à leurs accomplissements. Mais en même temps, si vous regardez les choses du point de vue de la colonne de gauche, toute personne, qu'elle soit savante ou qu'elle soit ignorante, toute personne, qu'elle soit artiste ou pas artiste, a droit au respect. Donc vous voyez, vous avez ces deux aspects-là qui, à mon avis, peuvent se concilier. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de respect, je dirais presque minimal, qui est dû à tout être humain en tant qu'il est un être humain. Et puis ensuite, il y a un problème je dirais, de modulation du respect et de modulation de la reconnaissance en fonction des accomplissements de chacun. Est-ce que quelqu'un mérite vraiment autant de respect qu'un autre par rapport à ses accomplissements? Voilà, je vais m'en tenir à ça. Je signale juste, je vais très vite, que un point important et qui est lié à tout ça, c'est le point du respect de soi. Parce que le respect, c'est une relation symétrique. Si je respecte quelqu'un parce qu'il est une personne, il doit me respecter parce que je suis une personne. Et donc, quelqu'un qui ne se respecte pas se traite lui-même comme un moyen. Si vous avez, en tant que personne, un devoir de vous traiter comme une fin et donc pas comme un moyen, de ne pas vous manipuler. Donc, par exemple, ne pas se prostituer, ne pas faire d'exhibitionnisme de soi, ne pas se laisser aller en abdiquant la volonté, par exemple, par rapport au travail, à la drogue, à la sexualité, etc. Je pense que c'est une bonne approche, et c'est pour ça que je termine là-dessus. C'est une bonne approche du respect en général à l'école, parce qu'il faut bien essayer de faire comprendre, justement, conceptuellement, aux adolescents et aux enfants, que le respect des autres a à voir aussi avec le respect de soi. Et que c'est une bonne entrée, je dirais, en matière, que de leur parler aussi du respect d'eux-mêmes, en préambule, en quelque sorte, à la réflexion sur le respect de soi. Il est évident aussi qu'il faut bien voir. C'est pas facile à montrer, mais à faire comprendre, mais c'est quand même facile à comprendre, si c'est pas facile à faire comprendre, c'est que d'une certaine manière, le respect étant une relation symétrique, c'est pas donnant-donnant, c'est pas un marché, mais c'est vrai que j'ai du mal à me respecter si on me respecte pas. Et il y a, je dirais, un cercle de la reconnaissance. Si je reçois l'estime d'autrui, je peux avoir de l'estime de moi. Et il faut que j'aie aussi de l'estime de moi pour avoir de l'estime d'autrui. Donc vous voyez quel point c'est une situation qui est bien compliquée. Voilà, j'ai terminé. Et donc maintenant, on va parler de choses beaucoup plus pratiques, mais qui seront tout à fait consonantes, vous allez voir, bien que nous ne soyons absolument pas. J'ai fait éditer un livre dans lequel j'ai raconté mes premières années dans l'enseignement qui ont été très difficiles. J'ai été chahuté, bousculé, on m'a craché dessus, on m'a baptisé au stylo à encre. Désolé. Voilà. On continue de me martyriser. Comme chacun sait, dans l'éducation nationale, on organise la rencontre entre les enseignants les plus débutants, qui ont le moins d'expérience et les publics les plus remuants. Dans ce livre, j'ai voulu aussi souffler un certain nombre de pistes de solutions qui m'apparaissaient avec les années, parmi lesquelles une formation de tenue de classe faite par les enseignants expérimentés à destination des enseignants débutants, des enseignants néo-titulaires, que des enseignants expérimentés fassent partager leur expérience aux enseignants débutants sur des techniques concrètes, c'est-à-dire comment fait-on pour capter l'attention des élèves, comment fait-on pour conserver l'attention des élèves, comment faire pour gérer un début de bavardage, comment faire quand un élève est insolent, comment réagir avec le moins de maladresse possible, où se positionner dans la salle de classe, comment instaurer un rapport chaleureux avec ses élèves, et quand un élève a transgressé une ligne blanche, comment sanctionner en évitant les maladresses. Voilà, il se trouve que cette proposition a intéressé M. Blanquer, qui est recteur de l'Académie de Créteil, et il m'a proposé l'année dernière de mettre en place une journée de formation tenue de classe devant des collègues néo-titulaires volontaires. En fait, on a renouvelé l'opération 4 fois, avec à chaque fois un groupe de 25 collègues néo-titulaires. Et les retours ont été très positifs. Du coup, cette année, M. Blanquer a voulu que tous les enseignants néo-titulaires de l'Académie de Créteil puissent avoir droit à une journée de formation tenue de classe. Et nous avons travaillé à la formation de formateurs de façon à généraliser le dispositif. Je vais donc aborder la question du respect dans les salles de classe à travers le concret de la tenue de classe. Juste, je précise que, évidemment, j'ai l'habitude d'intervenir devant des collègues qui sont néo-titulaires. Bon, pour la plupart d'entre vous, vous avez autant d'ancienneté que moi, voire davantage. Et là, le but n'est évidemment pas la transmission, mais plutôt l'échange entre nous. Voilà, deux abcès à percer quand on parle de tenue de classe, qu'il est très important de percer rapidement. Le premier abcès, oui, il n'y a pas de recette miracle. Cette année encore, il a pu arriver que je me fasse chahuter. Pas plus tard qu'il y a 4 semaines, dans une classe assez remuante, dans une salle en plus où les élèves avaient coupé les lanières des volets. Donc les volets étaient fermés. En début d'heure, un élève a éteint la lumière. Nous nous sommes retrouvés dans l'obscurité complète. Un chahut impossible. J'ai eu le réflexe de tirer rapidement sur la lanière d'un volet et puis de l'enrouler bon an mal an. Deux élèves avaient commencé à se battre, des gaillards de 17 ans qu'il a fallu séparer. Et quand un début de cours est aussi chaotique, on rame vraiment pour rétablir l'ordre. En l'occurrence, je n'y suis pas parvenu et j'ai eu véritablement du chahut sur cette séance. Il n'y a pas de recette miracle, mais évidemment, il y a un certain nombre de techniques, de conseils qu'on peut donner qui font qu'avec les années, ça va beaucoup mieux. Et aujourd'hui, heureusement, il est beaucoup plus rare que je me fasse chahuter et je prends beaucoup de plaisir dans mon métier. Le deuxième abcès qu'il faut percer par rapport à la tenue de classe, c'est oui, tous les conseils sont à trier, sont à adapter selon notre tempérament d'enseignant, selon le type de classe face auquel nous sommes et selon la culture d'établissement. Alors, c'est d'autant plus important que, vous l'avez compris, je suis très honoré d'intervenir devant des collègues de Maurice Ravel et de Hélène Boucher. Mais entre vos établissements et le mien sont deux univers radicalement différents. Mais je pense que les échanges en seront d'autant plus intéressants. Je vais donc traiter de cette question du respect dans les classes à travers 3 points. Le premier point, le plus important, construire son cours en favorisant le respect des élèves. Parce que pour obtenir le respect des élèves, le plus important naturellement, c'est comment nous transmettons les connaissances, c'est les savoirs que nous mobilisons et c'est notre façon de faire cours, c'est le plus important. Ensuite, comment assurer un climat de respect, la prévention en matière d'incivilité. Et puis, parce qu'il arrive que des élèves transgressent d'une manière assez grave certaines règles, comment restaurer le respect après une incivilité. Je commence tout de suite par le plus important, c'est-à-dire construire son cours en favorisant le respect des élèves. Les élèves sont reconnaissants envers un enseignant qui ne leur fait pas perdre leur temps et qui sait exciter leur curiosité intellectuelle le plus vite possible. C'est pour cela que l'instant le plus stratégique pour qu'un cours fonctionne bien, c'est le début du cours. Et nous avons à soigner particulièrement le document que j'appelle document cheval de Troie, le document qui va nous permettre de capter le plus vite possible l'attention des élèves. Alors juste à titre d'exemple, en histoire-géographie, j'ai l'habitude d'utiliser des photographies ou des images en couleur. Malheureusement, nous n'avons pas suffisamment de vidéoprojecteurs dans mon établissement, je me sers du rétroprojecteur, mais je prépare avec mon imprimante des surtransparents, des photographies ou des images en couleur. Ça coûte un peu d'encre, mais bon, on a rien sans rien. Voilà, donc par exemple, un cours sur l'agriculture, je peux le démarrer avec cette photographie d'un agriculteur qui utilise l'avion pour jeter des pesticides sur son champ. Alors, les élèves sont habitués à une procédure. On démarre par des questions, des commentaires et bien sûr l'analyse du document. Un autre exemple, un cours sur l'imprimerie. J'ai pu le démarrer avec ce livre qui est un livre du XVIIIe siècle. Donc j'ai montré aux élèves il y a l'année inscrite en chiffres romains, 1764, et puis avec approbation du roi, puisque à l'époque il y avait la censure. J'ai proposé aux élèves de se faire passer le livre et puis je leur ai suggéré de passer leur main sur une page pour sentir que les lettres sont en relief. Et puis on a pu introduire l'idée de l'imprimerie avec la presse telle qu'elle était à l'époque de l'invention de l'imprimerie. Et donc on excite la curiosité des élèves le plus vite possible. Et on installe son cours avec du crédit, hein, puisque les élèves ont envie de s'intéresser du coup au sujet que nous allons traiter avec eux. Important également pour que les élèves nous respectent, qu'ils aient vraiment l'impression de s'élever, c'est-à-dire de progresser. Et un élève va respecter un enseignant qui l'aide à comprendre. Alors pour ça, j'utilise en début d'année systématiquement des séances de méthodologie, c'est-à-dire que je sais que pour beaucoup de mes élèves, ils n'ont pas la chance d'avoir à la maison des parents qui leur apprennent comment apprendre, donc j'essaie de prendre un peu les devants. Et durant une séance en début d'année, je vois un peu avec eux comment apprendre. Donc à titre d'exemple, en français en BEP, les élèves ont à connaître une dizaine de procédés de style, métaphore, comparaison, exagération, gradation, personnification, etc. Je vois avec eux comment apprendre ces procédés de style à travers un jeu que nous montons. Donc ça, c'est sur l'une des toutes premières séances de français durant la première année de BEP, en seconde BEP. Je leur fais fabriquer des petits papiers avec d'un côté la définition et un exemple, et puis de l'autre côté le nom du procédé de style. Je fais venir au bureau un élève, donc ça se présente comme ça au départ, hein, c'est simplement un polycopier sur lequel j'ai mis dans direct angle les définitions avec un exemple. Hein, ici, par exemple, tu es un soleil pour moi, ressemble à une comparaison sans mots comparatifs, la métaphore. Donc je demande aux élèves d'écrire métaphore derrière, et puis ensuite ils découpent les direct angles de manière à faire les dix petits papiers. Je fais venir un élève au bureau, qui joue à essayer de retrouver le nom des procédés de style à partir de la définition et de l'exemple. Les procédés de style qu'il maîtrise, il les met d'un côté. Ceux qu'il ne connaît pas, il les met de l'autre côté. Puis ensuite, le jeu consiste naturellement à rejouer avec le tas des procédés de style qui n'étaient pas des papiers de procédés de style qui n'étaient pas maîtrisés. Je fais venir un deuxième élève et puis un troisième élève au bureau qui lui, donc surprise, on retourne les petits papiers. Et c'est à partir du nom qu'il doit retrouver une définition, bien sûr, avec ses mots à lui ou un exemple. À la fin de cette séance, tout début seconde BEP, les trois quarts des élèves de mes classes maîtrisent les 10 procédés de style qui sont à connaître pour le BEP 2 ans plus tard. Ce qui fait que à chaque fois qu'en français, par exemple, Je vais leur demander qu'est-ce que la personnification apporte au sens du texte. Eh bien, les élèves pourront se faire remarquer en cherchant la personnification et puis en cherchant ce qu'elle apporte au texte plutôt qu'en chahutant. On sait qu'une grande partie des élèves qui chahutent, c'est parce qu'ils sentent qu'ils n'ont pas d'autre moyen de se faire remarquer, parce qu'ils n'accèdent pas à la participation orale, parce qu'ils n'ont pas compris les notions de base dans une discipline. Donc attention pour nous à la méthodologie. Sur l'exigence de rigueur dans notre cours, je pense à l'interview que j'avais faite d'une collègue de mathématiques qui arrivait à la retraite l'année où je l'ai interviewée, en étant demeurée dans mon établissement, qui est un établissement assez remuant. Et j'ai toujours eu un certain respect pour les collègues qui arrivent à la retraite en étant restés dans un établissement très difficile. Je me suis toujours dit, ils doivent avoir un truc, c'est pas possible. Et elle m'avait raconté avoir croisé une ancienne élève la semaine où je l'avais interviewée. Et cette ancienne élève lui avait dit, vous étiez une bonne prof, madame. Je me rappelle, il fallait souligner en rouge la question posée en vert les données du problème. L'élève avait relié, vous étiez une bonne prof, madame, à chaque fois, pour chaque problème, il fallait souligner en rouge la question posée envers les données du problème. Les élèves sont reconnaissants et respectueux envers les professeurs qui leur donnent des procédures, qui reviennent et qui leur apprennent ainsi des règles qui leur permettent de progresser. La première des rigueurs dans le métier, c'est le langage. Notre langage, notre façon de parler. C'est la raison pour laquelle je crois qu'un conseil que nous donnons souvent à nos élèves est valable pour nous également, c'est celui de lire régulièrement. Pas forcément Marcel Proust, mais des auteurs de style précis comme Gide ou Flaubert, de façon à se mettre en tête des structures de phrases rigoureuses. Parce que dans ce métier, bien sûr, on est beaucoup plus efficace, par exemple, quand on a à rappeler à l'ordre un élève. Si on peut le faire en deux phrases précises, que si on utilise 20 phrases en disant 10 fois la même chose et puis d'une manière imprécise. Surtout, bien évidemment, un langage rigoureux, c'est ce qui permettra de mieux expliquer une notion qui n'a pas été comprise. Et comment améliorer son langage ? Eh bien, c'est avant tout par une lecture régulière, même d'un quart d'heure par jour, hein, mais c'est ça qui permet d'avoir en tête des structures de phrases rigoureuses. Un dernier exemple en matière de rigueur dans le cours, c'est par rapport à ce véritable tableau de bord de l'enseignant qu'est le bureau. Nous avons un certain nombre de documents dont nous avons besoin par rapport au cours et c'est important d'avoir eu une réflexion sur comment organiser notre bureau. Alors, bon, à titre d'exemple, évidemment, chacun a son mode de fonctionnement, mais d'ailleurs, il n'est pas toujours rangé comme ça. Hein. Là, c'était vraiment pour la photo. Ce vers quoi j'essaie de tendre par rapport au bureau pour justement me dégager l'esprit des préoccupations de logistique et pouvoir me centrer sur l'essentiel, c'est-à-dire le dialogue avec les jeunes. Ici, donc naturellement mon cours, les polycopiés, la montre bien en vue parce que c'est important de finir proprement son cours. Au passage, un petit truc de respect, j'ai l'habitude, en matière de respect par rapport aux élèves, j'ai l'habitude de régler ma montre à la seconde près par rapport à la sonnerie du lycée. De façon à, quand un élève me dit « Ah monsieur, ça a sonné !» pouvoir dire « Non, ça sonne dans 7 secondes ». Bon, c'est ça passe sous forme d'humour, mais c'est une marque aussi qui rend respecté pour sa rigueur. Ici, j'ai les grilles dont je me sers pour mon appel personnel et pour la note de sérieux. Je vais, puisque je donne une note de sérieux à mes élèves pour chaque trimestre qui compte dans la moyenne, donc dans ces grilles, je peux tout noter, CG pour chewing-gum, travail positif, etc. Pour chaque séance, c'est très pratique. J'ai du concret quand je vois les parents également, et puis pour remotiver les élèves, et notamment pour ma note de sérieux. Ici, le plan de classe, quand j'ai un plan de classe dans une classe,
Ça me permet notamment, en l'ayant bien en vue comme ça, de me rappeler facilement le nom-prénom d'un élève si je l'ai oublié. Ici, donc le carnet d'appel à Souche, le carnet note tout. Important pour se souvenir, je pense, quand j'ai débuté, il pouvait m'arriver qu'un élève dise « Monsieur, j'avais pas eu le polycopier la dernière fois. » Et je lui disais « Je vous l'apporte la prochaine fois. » Et puis j'oubliais. Hein. Maintenant, je note sur le carnet, note tout, et puis ça m'aide à y penser. L'agenda, parce que quand on a notamment un certain nombre de projets à côté des cours, c'est important de pouvoir se repérer dans le temps. Le cahier de texte, honnêtement, il n'est pas toujours là. Hein. Je l'ai mis pour la photo. Et puis ici, mon dossier discipline. Alors, c'est une pochette que je ne sors que quand je sais que ça va être chaud, comme disent les élèves, sur certaines heures de cours. Sinon, bon, je la laisse dans mon sac. Mais à l'intérieur, donc j'ai les documents pour exclure un élève du cours que j'ai déjà signé, j'ai déjà mis perturbation incessante du cours. Je n'ai plus qu'à éventuellement mettre un nom prénom d'élève de manière aussi à pouvoir être réactif. Hein. Alors bien sûr, je rappelle qu'il y a toute une procédure avant d'avoir le droit d'exclure un élève. Hein. Il faut l'avoir déjà sanctionné, avoir tout fait pour essayer de le sauver dans le cours, mais si vraiment il empêche le cours de fonctionner, voilà, je veux m'être dégagé l'esprit, savoir que au cas où, voilà, je suis prêt. Ensuite, j'ai mes fiches incidents si j'ai un rapport à faire, et puis j'ai prévu du travail suivant le niveau de mes élèves, de manière à pouvoir punir un élève en fonction de son niveau. Si j'exclus un élève, j'ai du travail immédiatement à lui donner. Si j'ai sanctionné un élève à la fin de l'heure, j'ai du travail à lui donner pour pouvoir le punir. J'en viens au climat de respect qu'il est important d'instaurer avec ses élèves, notamment pour faire de la prévention en matière d'incivilité. Tout ce qui permet d'instaurer un rapport chaleureux. Alors bon, je vais juste donner trois exemples. Tout d'abord, la règle de saluer nos élèves en début de cours, nous l'appliquons tous, mais les règles de politesse en France, c'est pas seulement de dire bonjour, c'est aussi de poser la fameuse question « Comment ça va ?» Donc quand les élèves entrent en cours, je répète 10 fois s'ils rentrent par petits groupes bonjour, et puis je pose la question régulièrement à des élèves, notamment à un élève avec lequel ça s'est mal passé la semaine précédente. Comment ça va, Michael, aujourd'hui? De façon à disposer l'élève d'une manière positive, à lui donner envie de retirer sa casquette assez rapidement, et puis à ne pas lui donner envie de se rebeller durant le cours. Un autre exemple de ce qui peut aider à instaurer un rapport chaleureux dans les cours, c'est la fiche de présentation que nous utilisons en début d'année. Alors, après les questions impératives d'un point de vue administratif, notamment le téléphone portable et fixe de l'élève, du parent, du deuxième parent, pour pouvoir dialoguer facilement avec tout le monde, j'en viens à des questions pour faire véritablement connaissance avec l'élève, c'est-à-dire musique préférée, matière préférée, sport préféré, film préféré, jeu préféré, vidéo ou autre, un livre qui vous a plu, autre goût, loisir. Et je lis attentivement les fiches à la maison en surlignant. La fois d'après, je pose des questions pour aller plus loin, de façon à montrer aux élèves que je m'intéresse à eux et puis à faire véritablement connaissance avec eux. Un dernier conseil sur ce qui permet d'instaurer un rapport chaleureux avec les élèves, c'est les activités que nous pouvons avoir avec eux en dehors des cours. Alors, à titre personnel, je suis passionné par le jeu d'échecs. Très mauvais joueur, mais j'ai beaucoup de curiosité pour ce jeu. Et j'ai créé un petit club d'échecs dans mon établissement. Un exemple de l'utilité de ce type d'activité, eh bien, au début de l'année dernière, je n'arrivais pas à démarrer un cours car des jeunes faisaient du bruit dans le couloir. Je suis d'abord allé leur demander sévèrement de descendre à la vie scolaire, ça n'a eu aucun effet. Ils m'ont ri au nez et j'ai donc changé de stratégie, si je puis dire. J'ai dit à l'un d'eux que je lui proposais de régler ça aux échecs à la récréation. Et puis j'ai embrayé en disant non, sérieusement, j'ai créé un club d'échecs dans l'établissement et j'en profite pour en faire un peu la promotion. Si certains d'entre vous veulent apprendre à jouer ou progresser, voilà, ça se passe durant les récréations. Et là, l'un d'eux a dit, moi je joue aux échecs avec mon frère, et c'est lui qui ensuite a dit au groupe, wesh, c'est bon, on descend. En fait, il ne voyait plus en moi seulement le représentant de l'autorité, mais aussi quelqu'un avec qui on peut échanger dans le respect, et du coup, ils avaient moins envie de m'embêter. J'ai créé un cours de politesse que j'utilise en vie de classe et en éducation civique. Donc sous forme de QCM, par exemple, cette question, quand deux personnes se rencontrent, qui doit saluer l'autre en premier? Le premier qui voit l'autre, le plus jeune, le plus ancien, le plus petit. Alors bon, je mets toujours une réponse aberrante de manière à faire un petit peu sourire les élèves, mais je me suis aperçu, c'est la raison pour laquelle j'ai monté ce cours de politesse, je me suis aperçu qu'un certain nombre de jeunes ne connaissent pas forcément les règles de politesse. On parlait tout à l'heure de ce qui se passe quand on passe devant quelqu'un, qu'il faille dire pardon, certains ne le savent pas. Et le premier facteur pour pouvoir être poli, c'est de maîtriser les règles de politesse. Et les élèves jouent ensuite à me saluer d'une manière ostentatoire. Ce cours dure 2 heures et il se passe très bien. Les élèves en sont vraiment demandeurs. Je pense aussi à cette question, comment faut-il s'adresser à un policier, monsieur l'agent, monsieur le représentant des forces de l'ordre, sale keuf. Bon, je mets la dernière proposition parce que je veux percer l'abcès. Je sais bien que chez certains de mes élèves, il y aura tentation à la provocation par rapport à ce type de questions. Mais ça a son importance aussi pour des élèves qui parfois peuvent être confrontés à des contrôles de police qui se passent mal, qu'ils sachent simplement quelle est la formule qu'on utilise pour s'adresser à un policier. Qui joue aussi sur le respect incontestablement, même si c'est plutôt mal vu d'en parler dans l'éducation nationale, c'est le charisme. Ce qu'il y a de très important à comprendre par rapport à cette notion, c'est que ça n'est évidemment pas un rayonnement magique que l'on posséderait ou pas depuis la naissance. Le charisme, ça s'apprend. Et ça s'apprend notamment par l'imitation de personnes charismatiques, par l'observation. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles je recommande l'observation mutuelle entre enseignants. Aussi pour voir parfois les gestes, les façons de se positionner qui sont efficaces, celles qui le sont moins, et puis pour pouvoir en discuter ensuite. Et ça, c'est incontestable. Enfin, je pense à un collègue qui avait de grosses difficultés avec une classe et qui m'avait demandé si je voulais bien l'observer. Et j'ai remarqué qu'il avait tendance à faire cours en s'appuyant sur le bureau, donc dos voûté, et puis en regardant sa classe un peu de côté. On est évidemment beaucoup plus efficace si on se tient debout, le plus proche possible des élèves, à hauteur des premières tables, et qu'on utilise des mouvements lents des bras aussi pour se donner plus d'amplitude. On est davantage respecté par les élèves et on donne davantage envie d'échanger avec soi que si on a le dos voûté. Juste au passage, un petit truc qui aide bien à canaliser les bavards du premier rang, et généralement on a positionné les bavards plutôt au premier rang, pour ne pas avoir à s'interrompre dans le cours. Il est assez efficace de poser simplement sa main sur la table de deux élèves qui sont en train de bavarder tout en continuant de faire cours. Ça donne du contrôle sur les élèves. En fait, la table sert un peu d'objet transitionnel entre le corps de l'enseignant et ceux des élèves. Et en posant sa main dessus, on s'aperçoit que les élèves regardent la main et se taisent. Hein, et ça permet de continuer le cours sans avoir à s'interrompre. Attention à tout ce qui permet de signifier aux élèves l'inégalité pédagogique. Alors, l'inégalité pédagogique, je rappelle ce que c'est cette notion importante pour les enseignants, qui est que si nous croisons des élèves dans la rue, si nous allons en justice, nous sommes égaux. Évidemment, les personnes sont égales. Mais en situation de cours, il n'y a pas d'égalité entre un enseignant qui fait cours et ses élèves. Et ça, bon, si on l'explique aux élèves, ils se révoltent, ils ne sont pas d'accord. On n'a pas à l'expliquer, en fait. Hein. Ça passe plutôt par une manière de se comporter, une manière de se positionner. Ça passe par des symboles aussi. Personnellement, je ne suis pas pour que l'on retire les estrades des salles de classe. Évidemment, ça n'est pas le professeur professeur qui est mis sur un piédestal, c'est le savoir. Hein. De même que de petits symboles, comme le fait que le seul siège de la salle avec des accoudoirs, ça soit celui du professeur, même si on recommande de s'asseoir le moins possible au bureau. Mais tout ça, ce sont des petits détails qui aident à positionner l'enseignant et les élèves. Donc, pour ce qui est du positionnement dans la salle de classe, je recommande quand une classe bavarde et puis qu'on l'a prévenue et qu'elle continue de bavarder, je recommande véritablement le plan de classe. C'est un outil qu'il faut parfois avoir le courage pédagogique d'imposer parce que les élèves au début veulent vous faire comprendre que ça n'était pas la bonne solution, évidemment. Mais le plan de classe permet aussi de faire comprendre à une classe que ce ne sont pas les élèves qui maîtrisent le territoire, que c'est le lycée, que c'est le collège, que c'est l'enseignant. Donc sur la note de sérieux qui aide bien à canaliser aussi mes classes. Bon, je vais passer assez rapidement pour qu'on ait plus de temps pour échanger. Donc le premier point, c'est écouter le professeur et ses camarades, ne pas bavarder. Ça, je l'ai mis sur 8 points. Le deuxième point qui m'apparaît très important aussi, c'est soigner le début de l'heure de cours, être silencieux et sortir immédiatement son cours à la bonne page sans que le professeur le demande. Ce deuxième point, je le vérifie quand je fais l'appel, ce qui me permet de retourner un instant qui est plutôt chahutogène. C'est l'instant où on fait l'appel, parce que les élèves ne s'intéressent pas trop à l'appel, on comprend bien pourquoi. Si je dis à une élève, par exemple Laetitia, et qu'elle n'a pas entendu son prénom, je lui mets début négatif, parce que elle n'était pas concentrée au début de son cours. Voilà, donc c'est dans ce type de grille que je mets ce qui s'est passé pendant une séance. Ça me sert pour mon appel personnel. Et ça me sert aussi pour noter travail positif, retard, etc., les questions de comportement par rapport aux élèves. Je précise que cette note de sérieux, elle est coefficient 2, mais comme je mets à mes élèves une note par semaine, sur une quinzaine de notes, elle influe sur la moyenne de 1 point, 1 point et demi. Hein, ça n'est pas, il faut aussi que ça reste crédible par rapport aux autres notes. Mais ça n'est pas mentir à nos élèves que de leur faire comprendre que progresser, c'est aussi progresser du point de vue du comportement. Hein, s'ils veulent réussir, c'est quelque chose qui est très important. Attention à tout ce qui permet d'économiser des sanctions, d'autant que la sanction, c'est du travail pour l'enseignant aussi. Alors bon, juste au passage, hein, ce que m'avait recommandé une collègue et que je trouve assez efficace, bon, mes élèves ont appelé ça l'encadré de la mort, donc bon, j'ai repris le nom. Quand j'ai repris des élèves pour bavardage plusieurs fois et qu'ils continuent de bavarder, donc, je fais un encadré au tableau. Les élèves savent que si leur prénom se trouve dans cet encadré à la sonnerie de fin de l'heure, c'est un rapport plus une lettre de demande d'excuse plus une sanction. Un exemple de ce que, donc évidemment, si après 10 minutes l'élève s'est calmé, j'efface son prénom. Un exemple de ce que c'est utile. Cette année dans une classe, j'ai deux élèves qui sont hyperactifs. Et l'une des deux m'a dit « Monsieur, ça m'aide bien pour me calmer d'avoir mon prénom au tableau. Hein. » En fait, on inverse les choses. C'est à l'élève de faire une démarche pour ne pas avoir la sanction et ça nous permet d'économiser la voix et d'économiser notre énergie, notre temps. Voilà, bon, j'avais un point quand un élève refuse de céder, mais là aussi, bon, il y a toute une procédure. Déjà, simplement pour aller plus vite aussi, pour laisser plus de temps par rapport aux questions, c'est vrai qu'il y a une façon de faire comprendre quelque chose à un adolescent en lui laissant entendre qu'il y a une marge de manœuvre. Et il y a une façon de dire quelque chose à un adolescent qui lui fait comprendre qu'il n'y a pas de marge de négociation. Sur la façon de... En plus, il y a des procédures qui permettent donc de faire en sorte que progressivement, un adolescent finisse par obéir à la demande, par exemple quand on lui a demandé de changer de place. Sur maintenant le dernier point, c'est-à-dire quand un élève a franchi vraiment une ligne blanche et que il faut le sanctionner. Quand on est confronté à un débordement grave, c'est-à-dire insolence ou menace, les priorités dans l'ordre sont celles-ci. D'abord, affirmer calmement que c'est grave ce qui vient de se passer et que ça donnera lieu à un rapport. On ne parle pas d'une sanction forcément parce que ça risque de jeter de l'huile sur le feu si l'élève est en train de sortir de ses gonds, mais on verbalise calmement que c'est grave, que ça donnera lieu à un rapport. Et puis, deuxième priorité, justement, temporiser, ralentir le débit de la parole, revenir au cours. Mais troisième priorité, très important également, mémoriser précisément ce qui a été dit par l'élève, ce qui a été fait. Pourquoi ? Parce que quand on est victime d'une agression verbale, on a tendance à refouler les mots qui ont été dits. Et après, on est contraint de remplir la fiche incident en mettant « l'élève a été très insolent », ce qui veut tout dire et rien dire. On est beaucoup plus efficace dans le travail éducatif quand on peut revenir avec un élève sur les mots précis qu'il a utilisés. On est plus efficace également, évidemment, devant les parents. Donc, dès que on a une minute, par exemple, on a mis les élèves au travail, on note sur le carnet les mots précis que l'élève a utilisés. Voilà. Et puis, quatrième point, évidemment, traiter. Sachant que traiter, c'est vrai, ça prend du temps à côté des cours, ça prend du temps de voir les parents, ça prend du temps de discuter avec l'élève et le conseiller principal d'éducation, la conseillère principale d'éducation, éventuellement de demander au proviseur une sanction parce que la sanction dont on estime que l'élève aurait besoin est assez importante. Tout ça, voir les parents, tout ça, ça prend du temps. Mais il faut savoir vraiment qu'au final, c'est beaucoup moins d'énergie dépensée que si on ne traite pas les problèmes. C'est important de prendre ce temps, y compris pour son confort d'enseignant. D'ailleurs, c'est surtout un temps qu'on prend durant les mois de... Enfin, disons, durant le premier trimestre. Et après, dans la plupart des classes, si on a bien fait le travail, c'est souvent en roue libre, comme on dit. Juste deux points pour terminer. Pour illustrer l'importance qu'il y a de reprendre les mots précis qu'un élève a utilisés quand il a débordé d'un point de vue verbal, je me souviens au début de l'année dernière d'une élève qui m'avait dit « Vous êtes un bouffon, monsieur ». J'avais dit « Très bien », et pris mon dossier discipline et j'avais noté en disant « Vous êtes un bouffon, monsieur ». Et là, l'élève commet l'erreur de me dire « Faites un rapport, vous pouvez en parler à mon père, je m'en bats les couilles. » Je ne ferme pas les guillemets. « Vous pouvez en parler à mon père, je m'en bats les couilles. » Là, l'élève s'est tue. Elle a compris que tout ce qu'elle pouvait dire pouvait être retourné contre elle selon la formule consacrée. Je ne me suis pas gêné. Hein. Le soir même, j'ai appelé le papa qui était très content d'apprendre que sa fille avait dit « Vous pouvez en parler à mon père, je m'en bats les couilles. » L'élève s'est comporté d'une manière exemplaire en français jusqu'à la fin de l'année. Elle a gagné 2 points dans sa moyenne entre le premier trimestre et le troisième trimestre. Je n'ai plus un seul souci avec cet élève. Hein. Quand on a repris les mots précis d'un élève, déjà, il nie beaucoup moins ce qu'il a fait. Il a plutôt tendance à avouer les faits et on est beaucoup plus efficace dans le travail éducatif. Un dernier point sur l'importance qu'il y a à traiter quand il y a un débordement d'élèves, c'était une proviseure qui m'avait véritablement donné une leçon ce jour-là. Une élève de la classe dont j'étais professeur principal s'était fait taper dessus par une camarade d'une autre classe assez forte qui lui avait littéralement arraché des cheveux. Moi, j'étais monté sur mes grands chevaux et j'avais réclamé tout de suite le conseil de discipline pour l'élève qui avait été violente physiquement. Et la proviseure m'avait calmé, déjà, je pense que c'était effectivement nécessaire. Et après avoir verbalisé aux élèves que c'était grave ce qui venait de se passer et que ça donnerait lieu à des suites, ça c'est important, ce temps posé pour dire la parole d'adulte, c'est grave, ça va donner lieu à des suites. La proviseure a demandé à chacune des élèves d'écrire chacune de leur côté précisément ce qui s'était passé et pourquoi. Il s'est avéré que l'élève de la classe dont j'étais professeur principal avait dit à sa camarade « Vu comme t'es grosse, t'es pas prête de te serrer un gars ». Donc il y avait une violence verbale au départ, et on a pu faire le travail éducatif jusqu'au bout, c'est-à-dire que naturellement l'élève qui a été violente physiquement a une sanction plus grave, une semaine d'exclusion, mais on a mis une sanction aussi pour l'élève pour l'élève de la classe dont j'étais professeur principal, qui avait utilisé une violence verbale vis-à-vis de sa camarade. Et la preuve que le travail éducatif a été fait d'une manière correcte, c'est que les élèves ont progressé dans leur comportement, chacune de leur côté, et qu'elles ne se sont plus cherchées mutuellement. Voilà, juste en conclusion, hein, je voudrais rappeler que aujourd'hui, le débat est quasiment clos. Oui, nous avons, nous enseignants, une part éducative dans notre métier, hein, une part d'éducateurs, que nous l'admettions ou non, de fait. Bien sûr que les parents ont la responsabilité la plus importante, mais nous avons aussi une part de cette fonction. Ça prend du temps, mais c'est passionnant. Et je voulais dire pour terminer. À l'heure où la fonction de CPE est menacée, qu'il est vraiment très important de travailler avec nos CPE, d'échanger avec eux sur les difficultés de nos classes, de voir les élèves avec les CPE qui jouent un rôle d'arbitre, qui sont très bien formés dans leur cursus pour le travail d'éducation des élèves. Voilà, je vous remercie. Est-ce qu'on
passe à Sébastien, à moi, oui. On commence. Donc on va passer la parole, Mathilde. Oui, et Sébastien, il faut venir un peu plus dans le champ. Voilà. Alors, à vous.
Oui, s'il vous plaît, je voudrais qu'on revienne un petit peu sur la note de sérieux qui m'a beaucoup intéressée. Déjà, je croyais qu'on n'avait pas le droit, en tant que professeur, de mettre une note de comportement pour l'élève. Enfin, c'est ce que... Moi, je reprends le métier après beaucoup d'années d'interruption, donc j'ai trouvé ça assez dur. Et quand j'ai voulu faire ça, enfin, je me suis renseignée, des collègues m'ont dit « Non, non, tu vas avoir les parents sur le dos, ça ne se fait pas, donne des punitions, mais ne mets pas de note de comportement. »
Bon, alors, j'ai discuté en fait de cette question précise avec Monsieur Blanquer, donc le recteur de l'Académie de Créteil, puisque sur un certain nombre de points, je pensais être à la marge aussi de ce qui est la règle. Il m'a complètement rassuré, c'est-à-dire que c'est vrai qu'il y a eu non pas des lois, mais il y a eu une philosophie dans les années, disons 80, qui est différente aujourd'hui. Et je ne suis pas d'accord avec toutes les orientations actuelles, mais sur ce point-là, je trouve que on a été plus réaliste, c'est-à-dire que en fait, par humanisme pour les élèves, finalement, on a manqué d'humanisme avec eux parce qu'on leur a menti. Et aujourd'hui, pour un certain nombre d'élèves, il est tout aussi important d'apprendre qu'on ne parle pas à quelqu'un d'une manière violente, on s'assied sans jouer à faire tomber son camarade, etc., que des connaissances proprement dites en français, en histoire, donc ça n'est pas leur mentir. Mais j'ai bien précisé que cette note de sérieux, je m'arrange pour qu'elle influe sur la moyenne de un point et demi, hein, parce que il faut que l'essentiel, ça reste bien sûr le niveau des élèves. En tout cas, on est couvert, entre guillemets, si je puis me permettre l'expression, aujourd'hui, quand on utilise cette méthode. Et je dirais qu'elle est peut-être regrettable, c'est-à-dire évidemment, l'idéal, ce serait qu'on n'ait pas besoin de ce type de méthode. Mais il faut être réaliste, et une partie de l'éducation, quand les jeunes n'ont pas atteint encore suffisamment le niveau de maturité, passe par la carotte et le bâton. C'est dans les faits, c'est ainsi.
Autre question ? Posez bien toutes les questions que vous avez envie de poser. Hein. On est
alors, d'abord, je voulais vous remercier parce que je pense que quand j'ai commencé à travailler, j'aurais bien aimé, effectivement, qu'on me donne ainsi des trucs de métier qu'on apprend au fur et à mesure du métier au bout de quelques années. Mais souvent, on les apprend à ses dépens, c'est-à-dire après avoir fait des erreurs. Et bon, pourquoi, effectivement, ne pas profiter d'éviter de commettre des erreurs qui ont déjà été commises avant vous. Alors, il se trouve qu'il y a les débutants dans le métier qui sont dans les postes difficiles, et puis on est dans une structure où effectivement, on peut se retrouver après 25 ans de métier, TZR, et donc recommencer dans des établissements difficiles, être sur plusieurs établissements, ce qui est mon cas, à la fois ici, qui est effectivement un bon établissement, puis dans un lycée professionnel dans le 20e.
Donc, pour des périodes de combien de temps en moyenne, excusez-moi ?
Ça peut être pour des remplacements courts ou des remplacements à l'année. Sauf que moi, c'est un remplacement à l'année, puisque voilà. Donc, ce sont deux publics scolaires tout à fait différents, deux univers différents. Et je suis effectivement à peu près d'accord avec tout ce que vous avez dit. Il y a des petites choses que je fais, d'autres que j'ai notées. Par contre, il y a un élément sur lequel je suis en désaccord complet. C'est l'idée... Alors, la fiche de présentation, par exemple, je ne la fais plus du tout, sauf quand je suis professeur principal d'une classe, où là, on a un rôle supplémentaire à jouer. Parce que je pense que toutes ces données-là, les CPE les ont justement, et il vaut mieux aller discuter avec eux. Et la deuxième chose, c'est que je pense que le respect, ça ne doit pas être lié à une activité qu'on aurait en dehors du cours avec les élèves. C'est une notion qu'on a dans le cours ou qu'on a dans le couloir, même si, et on sait très bien que quand on n'a pas un élève dans ses cours, il vous respecte moins parce qu'il vous connaît moins, c'est vrai, mais il n'empêche qu'ils doivent aussi accepter l'idée que nous sommes enseignants, nous leur apportons des connaissances, avec tout le respect qu'on leur doit, mais ça ne doit pas être lié à une activité qu'on aurait en dehors du cours.
Oui, alors bah écoutez, je suis d'accord avec vous. Hein. Déjà sur évidemment la première partie de votre propos, l'utilité qu'il y a à échanger nos expériences avec les collègues débutants. Un seul exemple, quand j'ai débuté pour contrôler le travail individuel contrôler individuellement le travail des élèves, je passais dans les rangs même avec les classes les plus difficiles sur les heures les plus difficiles. Et il est arrivé que du coup je me retrouve avec une partie de la classe dans le dos. Il y a eu une bagarre, un élève a dû aller en conseil de discipline par rapport à ça. Et j'ai appris tardivement, voilà, que avec les classes les plus remuantes, comment contrôler le travail individuel des élèves, c'est très possible. C'est les seuls instants où je m'assieds au bureau et je demande aux élèves de venir, en fait, tour à tour. Déjà, on y gagne la démarche symbolique puisque c'est l'élève qui vient vers le savoir entre guillemets, vers une correction de son travail et c'est pas le professeur qui va l'assister derrière son dos. Et puis, avec sur les heures les plus difficiles, ça permet de conserver naturellement le contrôle de sa classe. Donc voilà, et ça, je l'ai appris, mais il m'a fallu 2 années, et quel gâchis, puisque certainement un élève ne serait pas allé en conseil de discipline si on m'avait parlé de cela sur les heures les plus difficiles en début de cursus. Je suis tout à fait d'accord avec l'idée que le respect, c'est avant tout dans le cours. Et j'ai bien précisé en introduction que il n'y a absolument pas de recette miracle. Et après, enfin, je pensais au titre d'un film assez sympa, Whatever Works. L'important, c'est que ça marche. Moi, ça m'aide dans mon établissement. Mais si d'autres parviennent, en plus, je n'ai pas dit que c'était l'essentiel, hein. Ça c'est un petit plus dans mon établissement. Si d'autres s'en sortent très bien sans cela, tant mieux. Puis après, il faut que ça parte d'une envie de d'échanger sur un point précis. Il faut absolument pas que ça soit une obligation, hein.
Oui, bonjour, c'est une question qui s'adresse à vous deux en fait, un peu, parce que j'essaie de voir le lien qu'il y avait entre ce que Monsieur Michaud a dit. Les deux approches kantiennes et puis celle des autres. Je ne sais pas qui c'est les autres, peut-être que vous pourriez préciser. Je voudrais savoir, vous, un peu comment vous situez, parce que j'ai vu qu'il y a plein de contraintes, finalement. En fait, on apprend aux élèves à accepter des contraintes. Et je pense que c'est un des problèmes majeurs d'aujourd'hui, c'est que, voilà, tout est permis. Donc, voilà, je voudrais donc une réponse, ça peut être les deux.
Oui. Écoutez, il y a plusieurs sortes de contraintes. Et moi, je crois que ce qui est important aussi bien d'un point de vue théorique que d'un point de vue d'apprentissage au quotidien des choses, c'est de faire d'essayer de faire comprendre aux élèves pourquoi des contraintes doivent être acceptées. Alors, il ne s'agit pas de tout négocier, mais de montrer qu'on accepte un certain nombre de contraintes sur des bases qui sont très différentes. Par exemple, si vous prenez le silence modéré, ne pas bavarder en classe. Là, je dirais que c'est une contrainte qui est acceptée sur des bases de fonctionnalité. Hein. Si on veut pouvoir écouter quelque chose, si on veut pouvoir profiter du cours ou pouvoir poser une question, il faut que respecter une discipline, que tout le monde ne parle pas en même temps, que les gens bavardent pas, qu'il y ait de l'attention. Là, ça n'a rien à voir avec le respect. Sinon, avec le respect du savoir, mais là, je dirais la simple fonctionnalité, on s'entend pas. Hein. Et alors, quelquefois, vous l'avez dit, souvent les gens disent « Oui, bah, de toute manière, nous, on a l'habitude de bavarder, ça nous gêne pas, et pourquoi ça vous gêne, vous ?» À ce moment-là, je crois qu'il faudrait presque faire des petites expériences. C'est leur passer un CD absolument inaudible, par exemple, en disant « est-ce que vous entendez quelque chose ?» Ou bien leur dire de faire un exposé, puis mettre de la musique. Hein, de manière à ce que personne n'entende rien. Non, bon, bah, vous voyez un petit peu ce que ça donne. Je ne sais pas si je le ferais si j'étais dans votre situation, parce que je mesurerais les risques que ça dégénère, mais je pense que c'est un type de contrainte qui n'a rien à voir avec le respect. Il y en a d'autres, en revanche. Une chose qui me frappe beaucoup, parce que c'est vrai aussi à l'université de tous les savoirs au lycée. C'est pas vrai à l'université de tous les savoirs pour tous les publics, où les gens, vous savez, chaque fois que la conférence est terminée, c'est ouvert au public, les gens posent leurs questions. Vous pouvez avoir un prix Nobel et un quidam peut poser une question au prix Nobel. Simplement, à l'université de tous les savoirs, d'abord on a le micro, les gens se lèvent, ou en tout cas ils s'identifient, et la question intéresse tout le monde. Moi j'ai remarqué que quand on intervient dans les lycées, un type pose une question, souvent, et il croit qu'il n'y a que lui, les autres croient que ça ne regarde que lui, et lui il croit que ça ne regarde que lui. Hein. Ce qui fait que si vous répondez, dans certains cas, mais à ce moment-là il faut remédier à ça, vous allez vous apercevoir que les autres n'écoutent pas la réponse, ou qu'ils commencent à bavarder. Alors là, je dirais que c'est une question de respect, mais un respect que vous allez faire comprendre en termes de dialogue. C'est-à-dire que dans un dialogue collectif, dans une communauté, la question que pose quelqu'un importe à tout le monde. Et quand je faisais des formations de philosophie à titre expérimental au collège Édouard Herriot de Maisons-Alfort, je prenais mes gamins par groupe de... Alors vous me direz, j'avais de la chance, je prenais par groupe de 12 à 15, et on était sur une structure ovale, j'étais avec eux, c'était moi qui commandais, mais la structure était ovale, on était assis en rond, et la première chose que j'expliquais, c'est tout le monde doit parler. Et quand tout le monde parle, celui qui parle doit être écouté, et même s'il dit une connerie. Parce que dans un dialogue, une connerie, ça fait avancer les choses, souvent. Et je leur disais, ben, c'est ce qui se passe avec Socrate. Hein. J'ai jamais entendu parler de Socrate, hein, la plupart du temps. Mais ça, on commençait comme ça. Et j'ai dit, celui qui croit qu'il pose une question stupide, il doit la poser. Et les autres doivent pas rire. Et je faisais cet apprentissage, qui était un apprentissage, alors là, pour le coup, du respect. Et j'y voyais non seulement un apprentissage qui leur permettait de fonctionner bien, parce qu'une fois qu'ils avaient compris ça, alors il faut dire que c'était des collégiens, hein, ils étaient plus accessibles à ce genre de raisonnement, souvent, mais je suis persuadé que ça pourrait se faire avec des lycéens. Une fois qu'ils avaient compris la chose, non seulement le groupe fonctionnait bien en tant que philosophie, mais il fonctionnait très bien, je dirais, en tant que civique. Parce qu'au fond, ce que je leur apprenais, c'était tout simplement un comportement civique dans une assemblée. Et que la question que pose un type ne concerne pas que lui, et que la réponse ne concerne pas que lui. Donc vous voyez, moi je crois qu'en fait, alors je dirais c'est du travail au quotidien, et je pense que toutes les choses que je dis comme ça, Sébastien y a déjà pensé, ou s'il n'y a pas déjà pensé, il le mettra en musique. Mais d'une certaine manière, c'est à chaque étape de l'expérience quotidienne que vous pouvez mettre en place des choses comme ça en disant voilà, ça c'est un exemple de, et c'est pour ça que je fais ces sortes de clarifications conceptuelles, si vous voulez, parce que elle est générale, la clarification conceptuelle, mais tout n'est pas une question de respect. Il y a des questions de dans un lycée marseillais récemment où ils étaient très nombreux. Quand ça a été fini ma conférence, le proviseur a dit, eh ben vous sortez par rangée. Et visiblement, il avait l'habitude d'imposer ça, alors que leur tentation, c'était de tout partir comme une volée de moineaux. Et il leur a rappelé que la fonctionnalité de sortir, d'abord dignement par rapport aux conférenciers, hein, de pas avoir l'air de plaquer le truc comme s'il y avait le feu, et que d'autre part, c'était aussi la manière la plus rapide de sortir par rangée, plutôt que de tous s'agglutiner dans l'entrée. Hein. Donc, et là, j'ai bien aimé la réaction du proviseur. C'est une manière d'expliquer une règle, une contrainte, parce que c'est une contrainte pour des gamins. Ils sont restés une heure et demie, deux heures enfermés à écouter quelqu'un. Ils ont qu'une envie, c'est d'aller sortir et se détendre. Mais en même temps, vous avez l'occasion de leur expliquer quelque chose qui est conceptuellement profond aussi. C'est-à-dire, un, la fonctionnalité, deux, le respect dû aux conférenciers, et trois, à la limite, l'image qu'ils donnent d'eux-mêmes. Vous voyez, vous donnez l'idée que vous n'êtes pas une bande de sauvages qui essayent de se passer par la même porte, mais que vous essayez d'avoir un comportement ordonné. Voilà, c'est toutes ces petites choses-là, je dirais qu'il faut, et ça nécessite un soubassement conceptuel. Il ne faut pas trop confondre les choses. Il ne faut pas dire la discipline du dialogue, c'est une discipline, par exemple, purement énergétique et économique. Non, c'est aussi une discipline de respect.
Si je peux me permettre. À titre de complément aussi, excusez-moi madame, je termine. Je pense à une notion que j'ai trouvée vraiment très, très importante dont parlait monsieur Michaud, par rapport au respect vis-à-vis de l'être humain. Et je pense à une expression que vous avez utilisée, tout est permis, qui est une exagération, bien sûr, et qui se voulait telle. Mais je pense que, par rapport à ce que disait monsieur Michaud, le respect naturel vis-à-vis de l'être humain, je voudrais souligner à quel point c'est une exagération quand on dit que tout est permis, y compris dans un établissement comme le mien, parce que nous sommes à peu près un éducateur, un adulte pour 10 élèves. Si tout était permis, qu'il n'y avait plus de respect, il n'y aurait plus de cours du tout, plus rien ne fonctionnerait. Or, aujourd'hui, on est quand même dans un pays de 63 millions d'habitants, et quand il y a une agression d'enseignants, ça reste tellement rare, heureusement, qu'on en parle à la télévision aux 20h quand ça arrive. Et j'ai souvent été vraiment surpris à quel point, près de 10 ans que je suis dans cet établissement difficile, des élèves qui font de grosses bêtises par ailleurs, quand on les prend après le cours, pas quand ils sont devant leur public, en les regardant dans les yeux et en parlant, il y a un respect naturel qui s'instaure entre par l'être, dirait Lacan, qui rejaillit profondément sur l'humanité. Et ça s'inscrit dans le concret, si vous voulez. C'est je pense à cet élève avec lequel j'avais eu vraiment du fil à retordre, qui finalement m'avait invité dans sa cité à prendre le thé au début des grandes vacances, parce qu'il avait eu son BEP et qu'il en était content. Il y a du concret, il y a du concret humain, et ça se fonde vraiment sur les échanges. Et heureusement qu'on a cette réflexion philosophique pour nous aider aussi à avoir confiance en l'humain.
Merci. Donc moi je voudrais apporter un témoignage de direction ou de CPE d'ailleurs, parce qu'on a la même expérience. Sur lequel j'aimerais bien que vous nous éclairiez, vous nous donniez votre analyse et vos conseils. C'est qu'on voit souvent, nous, arriver des rapports d'enseignants faisant état d'insolence d'élèves à partir de faits mineurs. Par exemple, arrête de bavarder, non je bavarde pas, si tu bavardes, non je bavarde pas, et puis ça monte, ça se termine par une insulte, une injure grave envers un enseignant, qui lui-même répond, c'est normal, et qui donc reçoit encore une autre injure, parfois ça peut venir aux mains. Et quand on interroge l'élève, l'élève dit qu'on lui a manqué de respect. Et l'élève se sent complètement de bonne foi, en disant mais moi je ne parlais pas, qu'on lui a manqué de respect ou qu'il est victime d'une injustice. C'est ça un ressenti, en général l'élève a tort, hein, mais il a tort tout le temps d'ailleurs dans ces situations là parce qu'en réalité il bavardait, ou il n'avait pas fait son devoir, ou il était en situation d'infraction, mais lui-même n'en a pas conscience. Et on se trouve, d'ailleurs l'autre jour, je rentrais dans le bureau de mon collègue, il y avait trois jeunes gens, je lui dis mais qu'est-ce qu'ils font? Alors ils venaient voir mon collègue, il me disait on vient voir, je sais pas ce que c'était, parce que c'est juste pour quelque chose de trois fois rien, mais qui risque de devenir un drame, enfin je sais pas. Bon, je les ai laissés, je t'ai même pas demandé de quoi il s'agissait, mais et souvent c'est pas grand chose. Et puis, ça prend des proportions terribles parce que, tel les rats de la Borie, l'élève dans sa cage est prêt à sauter à la gorge de l'enseignant. Et des fois, c'est l'autre côté aussi. Donc, je vous livre cette expérience. Merci.
Je vous en remercie. Alors, par rapport à la question, déjà, d'élever la voix. Hein, alors, personnellement, ne jamais élever la voix avec une classe très difficile, je ne sais pas faire. Si quelqu'un a le secret, je suis preneur, mais je ne sais pas faire. En revanche, c'est vrai qu'il y a des règles qu'il est bon de rappeler. C'est, il faut que ça reste le plus rare possible, sinon on perd complètement de son crédit, de son efficacité. Jamais en tête-à-tête avec un élève, c'est-à-dire par rapport au groupe, si on n'a pas été entendu, vous avez du travail, enfin voilà, par rapport au groupe, et ne jamais paraître véritablement en colère. Parce que quand on est en colère, le message qu'on voudrait faire passer, c'est « faites attention, ça va chauffer », et le message qui passe en réalité, c'est « je suis dépassé par vous ». Moi, en plus, je deviens tout rouge quand je suis en colère, donc les élèves en rient, ça n'a absolument aucune efficacité. Bon, ça, c'est au niveau de notre pratique d'enseignant. Sur la fiche incident, c'est vrai que on est plus efficace quand on rédige une fiche incident en essayant d'avoir un point de vue externe, comme on dit en français, c'est-à-dire de s'extraire de sa propre personne, en fait, en disant voilà ce qui s'est passé, ce que l'élève a dit au professeur, etc. On essaie d'imaginer une caméra à l'extérieur de la scène qui est pour dire le plus objectivement possible. Et quand ça m'est arrivé d'élever la voix par rapport à un élève, parce que j'étais très énervé, voilà, et je le mets bien dans la fiche incident pour reconnaître devant l'élève, voilà, j'ai tout mis, je n'ai pas cherché à omettre une partie, mais essayer de s'extraire quand on fait une fiche incident. L'idéal, c'est ça serait de la faire écrire presque par un autre collègue en lui racontant la scène, mais essayer soi-même de s'extraire par rapport à cela. Enfin, par rapport à la question du respect. Le débat sur mai 68 est assez stérile. Heureusement qu'il y a eu mai 68 sur un certain nombre de points. Heureusement, la jeunesse au garde à vous sous la Troisième République, ça n'était pas forcément une très bonne chose. Maintenant, c'est incontestable aussi que sur un certain nombre de points, on est allé trop loin. On a oublié une partie des jeunes ont oublié que la démocratie, ça va de pair avec des règles, que dans une démocratie, il y a toujours une hiérarchie, simplement les règles, la hiérarchie sont là pour l'intérêt du plus grand nombre, donc il y a à réguler un peu le curseur, mais c'est vrai que chez un certain nombre de jeunes, il y a des exigences en matière de respect, et puis il y a cet oubli qu'il n'y a pas d'égalité entre le professeur en train de faire cours et les élèves. Et un enseignant qui élève la voix, alors bon, autant je dis qu'il faut essayer d'éviter, mais il y en aura toujours, et un élève qui met sur le parallèle, il a élevé la voix, donc moi aussi j'ai élevé la voix, il faut continuer de lui dire qu'il a tort, qu'il n'y a pas d'égalité en matière entre enseignants et élèves dans ce domaine.
Oui, pas ralentir le débat, mais deux ou trois remarques. Premièrement, c'est vrai que quand l'élève dit « on m'a manqué de respect », je crois qu'il faut tenir compte du fait qu'ils ont un usage du langage qui est parfois extrêmement réduit. Et ça fait partie des conditions, je dirais, d'instauration d'un dialogue, d'essayer de mesurer ce qu'on peut faire comprendre dans le langage, et en tout cas, d'essayer de mesurer aussi ce qu'on ne peut pas faire comprendre, c'est-à-dire les malentendus possibles. Si vous utilisez le mot respect dans le sens où je l'ai utilisé, et si lui, il considère le respect, c'est j'ai le droit de te marcher sur les pieds et pas toi, on partage pas le langage. Donc à ce moment-là, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit faire l'effort, puisqu'ils sont en phase d'apprentissage, on doit faire l'effort d'aller jusqu'au point où il peut comprendre comprendre. Et par exemple, je crois qu'il y a une pédagogie de la sanction qui implique qu'on fasse comprendre que si on sanctionne, c'est parce qu'on respecte. Pourquoi ? Parce qu'on respecte la responsabilité et la liberté des individus. Hein ? Un individu est responsable de ses actes, il est libre, et s'il enfreint dans ses actes, sciemment ou involontairement, il y aura une sanction, et elle doit être expliquée. Je crois beaucoup aussi à l'après-coup. C'est-à-dire, dans le moment, et Sébastien Clerc le dit très bien, sur le moment, il faut, je dirais, refroidir la situation et surtout pas, comme vous avez une bonne expression, parler des rats dans la cage, il faut surtout pas coincer l'individu sans qu'il ait de porte de sortie. Parce que c'est de là que vient la violence. Hein. Quand on est acculé dans un coin, c'est la violence. En revanche, à tête refroidie, le lendemain, on peut, je dirais, dire quelque chose, hein, revenir sur un comportement de manière réfléchie et refroidie, en disant, je vais vous expliquer pourquoi ça s'est passé comme ça, et vous allez m'expliquer aussi pourquoi ça s'est passé comme ça. Et ça fait partie du processus d'établissement du respect, si vous voulez. Alors c'est vrai aussi que, alors j'ajouterais, c'est que ce que je vous ai présenté là sur le respect, c'est typiquement le genre de choses que j'arrivais à faire comprendre parfaitement à des collégiens de 12, 13, 14 ans. Hein ? Aucune difficulté à comprendre ça. En des termes peut-être un peu plus simples, mais c'est aucune difficulté à leur faire comprendre. Et donc, je dirais que l'école, c'est pas seulement une classe, hein, c'est aussi un cycle d'études. Je crois qu'on aurait intérêt, notamment, je pense pour vous, en seconde, à essayer de mettre en place de l'instruction civique ou des cours de comportement ou les cours de politesse aussi. Cours de politesse, très souvent, les gens sont impolis, tout simplement parce qu'ils savent plus du tout comment on se conduit. Ils savent pas comment on réagit dans une situation donnée. Leur expliquer bêtement, y compris sous forme de QCM, qu'est-ce qu'il faut dire à tel moment, moi je trouve que c'est fondamental. Et je suis même pas sûr qu'ils soient contre, hein, tout simplement parce qu'ils savent pas comment se conduire. On leur a rien dit là-dessus. Alors vous me direz, ça fait reposer sur l'école des fonctions qu'elle n'avait pas dans le temps, c'est vrai. Mais je veux dire, à partir du moment où c'est la condition pour pouvoir fonctionner, il faut bien qu'on le fasse. Mais encore une fois, c'est une pédagogie à la fois qui doit être pratiquée au départ, le plus tôt possible. Moi, je pense que le collège, de ce côté-là, dans son programme, dans ses habitudes, est déficient. On pourrait faire plus au collège. Et ensuite, c'est du quotidien, c'est-à-dire essayer d'avoir en quelque sorte une ligne de conduite, comme je pense Sébastien Clerc, c'est assez évident dans ce qu'il nous dit, avoir une politique générale. Et cette politique générale, chercher chaque occasion de la transformer en routine, quoi, en quelque sorte. Que les gens soient habitués à ce que c'est comme ça et pas autrement. Je veux dire, voilà.
Si je peux me permettre juste une précision par rapport au cas précis que vous évoquiez, je crois qu'en tant qu'enseignant, on a à se poser la question, est-ce que le combat vaut le coup d'être mené aussi parfois ? C'est-à-dire quand un élève a répondu « mais non, je bavarde pas », bon, à la limite, avec l'humour, on lui dit « c'était un flagrant délit » et en plus, flagrant délit de mensonge, bon voilà, et puis on passe à autre chose. Je pense aussi à un collègue qui s'était enfermé lui-même en ne supportant pas le moindre bip de montre. Les élèves avaient hésité entre le pousser à bout nerveusement ou arrêter. Enfin bon, évidemment, la première tentation était la plus grande. Donc il faut aussi ne pas savoir s'enfermer avec des choses qui n'en valent pas la peine. Je pense aussi à un élève qui a regardé son téléphone portable alors que toute la classe est au travail et que c'est une classe qui est très difficile. Moi je vais le pénaliser dans la note de sérieux si j'y pense après quand les élèves sont au travail, mais je vais pas m'interrompre à chaque fois. Je pense aussi à la majorité des élèves qui sont là pour travailler, pour réussir et qui ont droit à un cours où on ne s'interrompt pas à chaque fois et où il n'y a pas des scènes relatives à la discipline toutes les 5 minutes. Hein.
Une question qu'on a interrompue, voilà,
c'est ça. Pardon. Oui. Alors, j'avais pas mal de choses à dire, j'essaie de mettre de l'ordre. Oui, pour revenir sur ce que vous avez dit, et en effet, ça me frappe que même dans de bons lycées maintenant, ce genre de situation est tout à fait courante. Moi, je reprends après pas mal d'années d'interruption, et le métier d'enseignant n'a jamais été un métier facile, mais je trouve que, bon, en quelques années, disons une douzaine d'années, ça s'est considérablement dégradé. Alors, je vois plusieurs états de choses un peu en amont de tout ça. D'abord, nous sommes dans une société, et c'est repris par l'institution Éducation nationale, qui met sans arrêt l'accent sur les droits de l'homme, les droits de l'individu, les droits de l'enfant, les droits du jeune, ce qui fait que, sans mettre en parallèle un discours équivalent sur les devoirs. Le mot devoir et le mot moral sont devenus des mots presque obscènes. Donc là, je trouve qu'il y a un déficit très grave dans notre société et dans notre institution au sein de l'éducation nationale. Bon, on n'ose plus parler de devoir à la rigueur d'éducation civique, mais enfin, pourquoi pas de cours de morale, ou si le cours de morale, si le mot de morale est devenu un gros mot, peut-être le mot éthique ou un mot plus branché, je ne sais pas. Qu'est-ce bon que je rassemble? Oui, alors, en lien avec cela, bien entendu, les élèves vous sortent sans arrêt, mais madame, vous n'avez pas le droit de... Vous n'avez pas le droit, alors donne-moi ton carnet de correspondance, mais madame, vous n'avez pas le droit de regarder dans mon cartable, d'où je vois que pointe le carnet de correspondance. Vous n'avez pas le droit de me dire ça, vous... Et j'ai eu un peu un discours sur l'égalité, justement, dans une de classe de seconde, où ils m'ont tous dit « Mais nous sommes vos égaux, nous sommes... » Et vraiment, ils ne comprenaient pas que non, nous n'étions pas en situation d'égalité. Ils étaient absolument stupéfaits que je prétende leur imposer des règles. Non, nous sommes vos égaux. Bien, ça c'est un premier point. Donc je pense que la société et l'institution sont coupables là. Donc nous le sommes tous. Nous avons eu au lycée Hélène Boucher une grande journée l'an dernier sur les droits de l'homme, mais pourquoi pas une journée des devoirs du citoyen, d'où sous-rubrique devoirs de l'élève. Bon, excusez-moi, je continue puisque j'ai la parole. Par ailleurs, l'école, excusez-moi, j'espère que je n'abuse pas, l'école n'est plus au centre de la vie de l'élève. Ça, ça a changé depuis 15 ou 20 ans. Monsieur Michaud nous a dit en effet très bien que le respect s'est accordé de la valeur. Or, les élèves, moi je trouve dans mon expérience quotidienne, je pense que bon, plusieurs collègues sont d'accord avec moi, n'accordent plus de valeur, ils n'apprécient plus l'école. L'école est un dû, l'école est un déficit. Parfois je leur dis, si vous étiez en Afghanistan, vous apprécieriez d'aller à l'école. Peut-être que je ne dis pas ce qu'il faut dire, mais le fait est que ce ne sont que dans les pays en guerre, j'ai l'impression, que les enfants, là, ont encore une appréciation de l'école. Et enfin, dernier point, j'arrête, les conséquences des nouvelles technologies et des médias électroniques, qui sont certes merveilleux à beaucoup d'égards, je ne le nie pas, mais est-ce qu'il y a une réflexion suffisante sur les conséquences de leur emploi, notamment par les jeunes? Moi, je note, par rapport à il y a, disons, une quinzaine d'années, une baisse dramatique de la capacité de concentration. L'élève se concentre quand je... Bon, je suis professeur de langue vivante, donc, en effet, ils ont l'occasion de participer. Lorsqu'ils doivent répondre, bon, là, ils sont stimulés directement, ils répondent, et puis, dès que je parle aux camarades, ça y est, ils sont ailleurs, ils se remettent à bavarder. Donc, ils ont besoin d'être stimulés en permanence. Ils sont hyperactifs et je note qu'ils sont en général soit surexcités, soit alors, si l'excitation retombe, ils sont déprimés, couchés sur leur table. Ils sont très rarement dans un calme réceptif, prêts à recevoir le savoir. On aimerait leur dispenser. Voilà, j'arrête.
Alors, oui, d'abord, Ça n'est pas que dans les pays en guerre qu'on observe cette attitude. Bon, que là, on idéalise peut-être un peu. Hein, je ne sais pas si ça existe à ce point, mais enfin, une attitude de grand respect par rapport à l'école. J'ai eu la chance l'année dernière de conduire un projet d'échange avec une classe de Ouagadougou au Burkina Faso. Le Burkina Faso n'est pas un pays en guerre. J'étais ahuri par le degré de respect des jeunes vis-à-vis des adultes. J'arrivais avec mes clichés d'occidentaux en tête et je me disais oui, la chicotte, ça doit y aller. Pas du tout. Le bâton n'est pas utilisé du tout dans cet établissement, et simplement il y a un respect naturel de l'adulte qui est sans doute encore inculqué et qui fait que du coup j'ai assisté à des cours où il y avait une centaine d'élèves et le silence complet quand l'enseignant parle. Bon, écoutez, qui a une part de contrainte dans l'éducation, je le reconnais, mais en tout cas, il n'était plus tapé pendant le lycée. Je pense que on a trop confondu laïcité et neutralité. C'est-à-dire que l'école de la République, pour être laïque, on a eu ce travers de devenir de plus en plus neutre. Et moi, ça ne me choquerait pas du tout qu'il y ait des cours d'éthique depuis la maternelle où on apprenne effectivement à nos enfants la morale entre guillemets. Par rapport à la question du droit, là je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous, parce que je pense que de basculer dans une civilisation de droit, il y a beaucoup d'avantages aussi. Et en l'occurrence, par rapport au carnet de correspondance, nous avons le droit de demander son carnet de correspondance à un élève. Et le droit est souvent là aussi pour nous aider. On s'aperçoit que dans les textes, il existe quand même beaucoup de mesures qui peuvent nous aider par rapport aux élèves. Et là, je pense par exemple au cas d'un collègue l'année dernière qui avait voulu exclure un élève de la classe. L'élève n'avait pas voulu et le collègue immédiatement avait pris les affaires de l'élève et il lui avait dit « Ah oui !» et il a jeté les affaires par la fenêtre. L'élève s'est levé, il a pris les affaires de mon collègue et il a jeté les affaires de mon collègue par la fenêtre. Le problème, c'est que pour mettre un conseil de discipline à l'élève, on se trouvait à mal, puisqu'on était obligé de reconnaître que le collègue avait jeté les affaires. Bon, nous, en restant dans le droit, il y a quand même beaucoup de possibilités de coercition pour un élève et de l'aider à grandir par l'éducation. Et oui, simplement, c'est une exigence que nous avons à avoir en tant qu'adulte éducateur que de rester dans le droit. Mais il ne faut pas avoir peur de l'utiliser, le droit. Il y a des conditions où le conseil de discipline se légitime. Il y a des conditions où l'exclusion de cours se légitime. Et là, ça nécessite parfois un courage pédagogique. La dernière chose, simplement sur la technologie. Je ne suis pas très à l'aise par rapport à ce que vous dites, puisque j'aime beaucoup les jeux vidéo, par exemple. Mais je pense que là-dessus, on ne reviendra pas de toute façon hein, sur la civilisation des médias. Sur la difficulté plus grande de concentration des élèves, moi j'ai l'impression en seulement 10 ans, que ça s'est déjà aggravé. C'est-à-dire que quand j'ai débuté, j'arrivais à faire lire 2 livres à mes classes. Aujourd'hui, 1 livre, je suis déjà content dans l'année. Ça m'apparaît plus difficile. Mais sans doute que l'éducation nationale a à s'adapter aussi dans une certaine mesure. Et l'utilisation d'outils comme le vidéoprojecteur, les TIS, les jeux sérieux. Hein, par exemple, un jeu dans le cadre duquel un élève apprend comment fonctionne une entreprise en jouant au chef d'entreprise, ça entraîne les élèves à se concentrer également en utilisant des moyens qui correspondent à l'époque aussi. C'est aussi une piste.
Oui, moi aussi, je veux dire quelque chose après votre intervention. Bon, sur les droits, je crois qu'effectivement. C'est pas qu'on est allé trop loin, c'est qu'on confond un petit peu tout. C'est-à-dire qu'en fait, il faut être assez clair sur la hiérarchie des droits. Et là, c'est une culture, je dirais, des droits et des devoirs qui est à mettre en place, sans confusion. Alors, ça pose un problème, c'est que d'une part, c'est un travail au niveau collectif de l'établissement. C'est un travail aussi, il faut que les professeurs soient un petit peu d'accord là-dessus, que s'il y a des voix divergentes, s'il y a des professeurs totalement libertaires ou des professeurs totalement droits de l'homme, effectivement, ils vont jouer un rôle tout à fait négatif dans la distinction des niveaux de droit. Mais je crois qu'on peut très bien faire comprendre aux gens quelle est la différence entre le droit public, par exemple, le droit intérieur à un établissement qui est défini par un règlement intérieur, par une charte qui a été adoptée, à laquelle tout le monde souscrit, et que donc voir qu'il y a des hiérarchies de droit, ça demande des travaux de clarification, mais ça demande surtout un travail continuel de clarification. C'est-à-dire, en fond, vous avez des droits, bien évidemment, vous avez des droits de l'homme, mais vous n'avez pas des droits de... vous n'avez pas les mêmes droits que le professeur. Celui qui enseigne, c'est le professeur. Vous êtes élève et vous avez un statut d'élève. Ce statut d'élève vous donne un certain nombre de protections, mais il vous donne aussi un certain nombre de devoirs et aussi vous avez droit à un certain nombre de sanctions. Vous savez, je crois que la notion de sanction est quelque chose qui doit être au cœur explicite de la vie scolaire, mais en expliquant, encore une fois, quelle est sa fonction, comment ça doit être traité, et surtout les gradations, les nuances, etc. Et ça, c'est aussi bien une question de principe, je dirais, qu'une question de pratique quotidienne. Il y a, je crois, un art de la sanction, c'est-à-dire qu'il faut savoir utiliser les sanctions à bon escient, et pas du tout ou rien, ou etc., etc. La seconde chose, c'est sur l'évolution de la société. Ben je dirais, mon Dieu, qu'est-ce que vous voulez qu'on y fasse, hein? Je veux dire, si on peut y faire quelque chose, qu'est-ce qu'on fait à l'Université de Tous les Savoirs, par exemple? Moi, j'avais dit dans une interview au Monde il y a quelques années que le gros problème aujourd'hui, c'était l'océan de conneries c'était désespérant de lutter contre la connerie. Hein, c'est-à-dire, elle est omniprésente, elle se déverse sur tous les médias, etc. En même temps, qu'est-ce qu'on fait? Là, chacun où nous sommes, nous essayons de faire quelque chose contre. Moi, en tout cas, c'est ce que je fais depuis des années avec l'Université de Tous les Savoirs au lycée, etc. Mais ça m'empêche pas d'avoir une vision assez réaliste du fait que rude travail, hein, mort au con, quel programme, hein, je veux dire, c'est vraiment un gros problème. Mais c'est pas décourageant, parce que d'une certaine manière, on peut aussi penser qu'une reprise en main de l'école, que moi je crois relativement faisable et indispensable, une reprise en main de l'école est quelque chose de possible, et que les changements sociaux ensuite viennent à la clé, hein, je veux dire, sont une conséquence de je trouve extrêmement positif, si vous voulez, par exemple, que on ait cette demande dans les établissements de rencontres comme aujourd'hui. Je veux dire, il y a peut-être 10-15 ans, je pense que ça aurait pas été possible, ou les gens l'auraient pas voulu, j'en sais rien. La troisième chose, c'est sur les technologies. Alors effectivement, elles sont absolument empoisonnantes, mais elles nous obligent à revoir, d'une part, nos techniques d'enseignement, c'est-à-dire, j'en parlais avec certains d'entre vous là, l'importance de l'oral au détriment de l'écrit. Là, je pense que ça fait partie des choses qui sont urgentes et qui, après tout, dépendent de nous. Hein, j'expliquais à certains d'entre vous que moi, quand j'enseignais en premier cycle à Paris 1, je ne faisais la première année, en première année de philosophie, première année de premier cycle, je ne faisais que de l'oral. Je ne faisais aucune dissertation. Et on disait chez Michaud, il n'y a pas de philo parce qu'il n'y a pas de dissertation. Mais comme je considérais qu'ils étaient totalement incapables d'articuler trois idées, j'essayais d'abord de leur apprendre à articuler trois idées pendant la première année. Ensuite, ils pouvaient faire des dissertes, et comme mes collègues sévissaient après et qu'ils adoraient les dissertes, c'était tout bon. Hein, je veux dire, mais on a changé nos techniques. Et d'autre part, on a changé aussi les contenus de programme. Alors ça, c'est autre chose, mais je crois que beaucoup de profs, ils sont assez sensibles, hein, la redéfinition des programmes, par exemple, être beaucoup plus clair sur la partie, je dirais, dogmatique des cours et la partie d'interactivité. Peut-être être moins exigeant sur la quantité de contenu, mais plus exigeant sur l'absorption de ce contenu. Et en même, parce que je veux dire, c'est bien joli d'apprendre des programmes aux gens qui s'empressent d'oublier dès que l'école est finie. Hein, je veux dire, mais d'ailleurs, en fait, c'est vrai pour nous. Hein, moi, ce que j'ai pu apprendre comme histoire et de plus rien me souvenir, des Balkans, etc., le programme d'entrée à la normale sup, c'était un programme dément. Hein, je veux dire, et je me rappelle plus rien. Hein, je veux dire, si quand on me raconte ça, je me dis tiens, ça me dit quelque chose, mais j'ai tout oublié. Donc, essayez plutôt de définir des contenus plus définis, plus clairs, plus restreints, mais beaucoup plus dogmatiquement transmis. Hein, c'est obligatoire, il faut apprendre, réapprendre de la chronologie au lieu d'apprendre des monceaux d'histoire, réapprendre à se positionner et puis ensuite donner une place à l'interactivité. Une chose que je voudrais dire, parce que la dernière chose que je voudrais dire, c'est par exemple concernant la notation. On n'en a pas parlé, c'est pas le sujet aujourd'hui, mais la notation. Je ne sais pas comment vous faites, vous, pour la notation, mais moi, j'ai bien vu que dans ma discipline, qui est la philosophie, la notation, elle est complètement... c'est du folklore à l'état pur. La notation d'une disserte, en France, c'est grotesque. C'est-à-dire, on met une note, mais on ne sait pas à quoi. Et l'élève, la plupart du temps, il ne sait pas du tout de quoi il s'agit. Il ne sait pas du tout ce qu'on lui demande pour avoir sa... J'ai vu des pays, c'est le cas au Canada, c'est le cas en Belgique maintenant, où vous avez un barème. Alors, quelle contrainte c'est pour les profs, hein, mais vous avez un barème de la performance. C'est-à-dire que vous aurez tant pour l'orthographe, vous aurez tant pour la clarté de l'exposition, même si vous exposez quelque chose de tout à fait différent, vous aurez tant sur la pertinence de la réflexion par rapport au sujet, vous aurez tant sur les exemples. Toute la note est émiettée. Alors bien évidemment, le pédagogue à l'ancienne que je suis, il est complètement affolé en disant « mais moi je voulais une belle dissertation à la manière de la philosophie traditionnelle » et là il est obligé de trouver un sujet qui soit découpable. Ça se fait en maths, hein. Ça se fait déjà, je suppose, en mathématiques et en physique, il y a tant de points pour telle partie du problème. Et je pense aussi, mais on va être obligé d'aller de plus en plus dans cette direction-là, et ça demande... Par contre-coup, ça demande une adaptation énorme des programmes, des contenus enseignés. Voilà. Monsieur Mine.
Ouais. Oui, il y a un point que vous avez abordé sur lequel je voudrais un petit peu insister, c'est celui de la, j'appelle ça moi, de la cohérence de la position des adultes par rapport aux règles de vie. Vous avez évoqué les règlements intérieurs. Je suis, c'est sans doute par fonction un peu... particulièrement attaché à la précision du règlement intérieur et au fait que les enseignants se l'approprient et l'appliquent d'une manière cohérente. Une des grosses difficultés qu'on a, c'est vrai, c'est quand on est sur des questions sur lesquelles il y a une part de subjectivité, je pense par exemple à la tenue vestimentaire ou même simplement à la ponctualité. Vous avez par exemple des professeurs qui, à la première seconde qui suit la sonnerie, considèrent que la salle de classe ne peut plus être accessible à un élève et qui le renvoie. D'autres qui vont absolument, sans demander la moindre explication, tolérer 5, 10 minutes, voire davantage. Cette incohérence-là, elle est génératrice d'incompréhension, de confusion et de difficulté. Je crois que l'intérêt des discussions qu'on peut avoir, celle-ci en est un exemple, et celle qu'on a dans nos établissements tout au long de l'année peuvent y aider aussi, c'est qu'on se mette le plus possible d'accord, on n'arrivera jamais à un accord parfait, hein, mais le plus possible d'accord sur ce qu'on considère qu'il est possible de faire et sur ce qui n'est pas acceptable de faire dans l'établissement. Et en écho un peu à ça, et pour aborder aussi la question des technologies, un exemple qui me paraît intéressant, on en a parlé dans les colonnes du Monde et d'autres journaux en période de rentrée, c'est la question du téléphone portable. On est confronté aujourd'hui dans nos établissements à des réalités nouvelles qui n'existaient pas jadis. Alors, bon, faut-il tolérer, ne pas tolérer le téléphone portable dans les établissements ? Un bon sujet qui peut remplacer avantageusement celui du tabac qui maintenant est à peu près consensuel. On voit bien que les enseignants, par rapport à ça, n'ont pas nécessairement la même position. Quand on arrive, je crois qu'on est arrivé à peu près à Hélène Boucher, il n'y a pas si longtemps que ça, hein. On a travaillé à ça depuis le mois de juin dernier. Quand on arrive à définir à peu près clairement une position commune à toute l'équipe pédagogique, eh bien on s'aperçoit que finalement ça ne se passe pas si mal et que, pour peu que ce soit un peu expliqué, ensuite les élèves l'appliquent d'une manière, on va dire, à peu près satisfaisante. Donc moi je suis vraiment très attaché à ce qu'on se mette d'accord sur des positions à peu près cohérentes. La deuxième chose, c'est un petit peu en écho à ça aussi, il faut que tout le monde se sente investi de l'obligation de faire respecter les règles qu'on a adoptées en commun. Je pense en particulier, on est aussi là dans le respect de soi-même, hein, à la question qui se pose quand on voit des élèves assis, voire couchés par terre, dans les couloirs, dans les escaliers, etc. Moi, j'ai renvoyé assez fortement au professeur de mon établissement que je n'étais pas le seul, avec le CPE, on va dire, à être habilité à dire à un élève qu'une n'avait pas à être assis par terre ou couché. Et à partir du moment où tout le monde s'accorde à ça, eh ben on s'aperçoit qu'en l'espace de quelques semaines, les situations d'élèves assis ou couchés dans les couloirs disparaissent quasi totalement. Et enfin, dernière petite chose, c'est juste pour l'anecdote, parce que je trouve qu'elle est assez évocatrice aussi de choses nouvelles. J'ai reçu dans mon bureau l'autre jour un élève qu'un professeur avait mis, enfin que j'avais identifié comme étant responsable d'un blog découvert un peu par hasard par un professeur, mettant en cause des enseignants de l'établissement, avec des citations explicites nominatives, hein, donnant le nom de des enseignants, et un petit vidéoclip extrait de prise de vue réalisée pendant le temps de la classe. Le professeur m'ayant alerté, j'ai identifié l'élève, je l'ai convoqué et je l'ai fait venir à mon bureau. J'avais ouvert sur l'écran la page du blog en question, et puis j'ai rentré, je me suis contenté de faire pivoter mon écran et de lui montrer. C'est immédiatement réagi en disant qu'il assumait, qu'il comprenait bien de quoi je voulais parler, qu'il m'a dit « bon, je vois bien, mais je vois pas où est le problème, monsieur, j'ai ma liberté d'expression ». J'ai trouvé ça assez extraordinaire. Ça n'a pas duré très longtemps parce que... Mais il était totalement sincère. Il était absolument persuadé d'être dans l'exercice de son plein droit et d'avoir sa liberté d'expression. Il était sur un blog privé et il n'y avait rien à dire à ça. Il n'a pas fallu trop longtemps pour lui expliquer, mais ce qui m'a frappé dans cette affaire-là, c'est qu'il avait quand même fallu lui expliquer. Voilà. Donc je pense qu'il y a vraiment un énorme travail, comme vous l'avez déjà plusieurs fois évoqué, d'explication et de relecture du droit.
Alors moi juste
non, ils n'ont pas tous les droits. Madame.
Juste, je suis entièrement d'accord avec ce que vous avez dit. Juste une chose, c'est que simplement, l'expérience que nous avons, nous, à travers le parcours des lycées, c'est qu'un lycée vaut ce que vaut sa communauté. Un lycée, c'est une communauté. Il vaut ce que vaut le proviseur et il vaut ce que vaut la communauté autour du proviseur. Point à la ligne. Hein. Et un des problèmes, effectivement, c'est la disparité. Non-cohérence. Le problème n'étant pas d'être tous sur la même ligne et au garde à vous, mais qu'il y ait de la communication. Et une chose aussi qui frappe, c'est que souvent, par exemple, il y a des professeurs qui ont des difficultés et qui ne vont pas les partager. Hein, Sébastien Clerc dit très bien que l'observation de cours d'autrui, quand on est dans la difficulté, ça peut être une solution. Aller dire en salle des profs ce qui vous est arrivé, ça peut être une solution, sans pour autant partir dans un délire collectif de persécution. Mais il y a de la communication indispensable et de l'ajustement aussi des pratique, un ajustement, comme l'a dit M. Mine, qui sera jamais complet, et Dieu merci, mais il faut qu'il y ait un minimum. Moi, je pense qu'effectivement, téléphone portable, c'est comme la cigarette, ça devrait être interdit à l'entrée. Hein. Vous allez être forcément, basta, hein, qu'on n'en parle plus, mais je pense que ça arrivera d'ailleurs, hein, parce que, ou alors on met des trucs pas possibles qui tueront la cervelle à tout le monde et qui font exploser les portables et qu'on n'en parle plus. Hein.
Ça existe, hein, oui, juste avant de vous laisser la parole, excusez-moi. On a travaillé à plusieurs reprises avec des collègues à la cohésion de l'équipe. On a un lycée de 85 enseignants. C'est assez difficile. En plus, cette année, on a 75% de nouveaux personnels. Donc, avec ce turnover, c'est d'autant plus difficile. Et finalement, je crois vraiment qu'il faut cibler des priorités au niveau de la cohésion de l'équipe. Un exemple, justement. Dans mon lycée, on n'accepte pas les élèves en retard. À titre personnel, je fais une exception quand j'ai mis une interro. Quand j'ai mis une interrogation aux élèves et qu'un élève arrive en retard, je le laisse profiter de l'interrogation entre guillemets, mais sans doute je ne devrais pas. Mais enfin, c'est très difficile quand même d'être cohérent sur tous les points. En revanche, je pense au cas d'un collègue qui dit que lui, les écouteurs et la casquette, ça ne le dérange pas en cours. Là, c'est la communauté scolaire entière qui est remise en cause en fait par ce type d'acceptation. Et par rapport aux élèves qui commettent des transgressions dans les couloirs, on a à se rappeler simplement qu'il ne s'agit pas de monter au créneau, de sanctionner, etc. Il s'agit simplement d'une parole. Et les adolescents sont reconnaissants et d'autant moins angoissés qu'ils ont régulièrement des paroles d'adultes qui les recadrent sur leur comportement. Avec certains élèves en classe, je ne peux pas sanctionner à chaque fois qu'ils se lèvent en cours pour aller chercher un stylo. stylo ou ils n'y pensent même pas. Mais je rappelle la règle à chaque fois. On demande pour se lever. Et c'est en rappelant la règle à chaque fois qu'on crée un climat d'ordre aussi. Et c'est vrai que ça nous coûte pas grand-chose, hein, à chaque adulte dans l'établissement, quand on croise un élève qui transgresse une règle, de la lui rappeler verbalement. C'est important. Excusez-moi, madame.
Non, je voulais juste justement ajouter que c'est vrai, il faut distinguer entre l'ajustement à un règlement intérieur et une cohésion entre nos pratiques par rapport à ce règlement intérieur accepté comme par tout le monde, puisqu'il permet ce que vous appeliez la fonctionnalité, et un ajustement général de nos pratiques, là qui n'est vraiment pas souhaitable dans un domaine propre à notre pédagogie, etc., qui nous est propre. Et c'est tout. Donc autant un ajustement est nécessaire sur un certain plan, autant il serait préjudiciable sur un autre. C'est tout.
Oui, et puis on ne ment pas aux élèves aussi, puisque plus tard, quand ils auront des supérieurs hiérarchiques dans leur métier, eh bien là aussi, en fonction du cadre avec lequel ils travailleront, il y aura des exigences qui sont différentes. Donc que dans une certaine mesure, on ait des exigences assez différentes d'un cours à l'autre, ça n'est pas mentir aux élèves en termes d'éducation. Il faut s'entendre sur les principes les plus importants.